Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 juin de 18 à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Ça fait 20 ans et je ne m'en lasse pas. Je trouve cette musique extraordinaire. Bonjour Victoria.
Bonjour Serge.
Chanty.
Moi aussi, j'aime bien.
Salut Goff.
Bonsoir Serge Lebekech.
Comment allez-vous ?
De mieux en mieux.
Bon, enfin, c'est bien. Le marquis n'est pas là, non pas qu'il nous boude, mais parce qu'il avait une obligation mondaine. Il nous rejoindra en fin d'émission. Ce soir, nos invités, nous entendrons Éric Lebec, qui est écrivain et qui vient de publier un livre dont le titre est Benoît XVI, les défis d'un pape. Nous entendrons Christian Pérez et Franck Timmermans qui viennent de créer quelque chose qui manquait vraiment dans le paysage politique français, qui est un nouveau parti de la droite nationale. Et donc je vais les interroger. Ah, peut-être pas de la droite nationale. Enfin, de la droite en tout cas. Ou non, peut-être pas de la droite tant qu'on y est. C'est quand même pas un nouveau parti Trotsky, j'espère.
Non.
Bon, vraiment. Parce que alors là, vraiment. Peut-être l'abbé Laguéry, s'il se souvient, qui m'avait dit qu'il passerait. Nous recevrons ensuite Jean-Christophe Carme et Michel Toris, qui sont respectivement président et secrétaire général du syndicat Action Police CFTC, à qui je demanderai que peut faire Sarkozy. Nous recevrons le docteur Dor. Je vous laisse deviner quel sujet nous évoquerons. Vous aurez la surprise. Nous recevrons ensuite Nicolas Bonnal, qui revient de Patagonie, Argentine, Pérou, Colombie, Brésil, Chili et tous ces pays improbables, et il nous dira pourquoi il n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner. Et nous terminerons cette émission avec Sharon Newman, qui est écrivain et qui est écrivain de notamment de romans policiers, qui publie des romans policiers sur ce qui se passe au Moyen-Âge, c'est assez à la mode, au livre de poche, mais qui là a écrit un dossier très intéressant, la contre-enquête sur le Da Vinci Code. Et nous ferons appel à mon excellent camarade Goffman pour interpréter les propos de madame. Comme ça, on va pouvoir vérifier, Goff, si vous parlez vraiment l'américain ou si vous me bidonnez depuis des années en faisant...
Yaourt. Et qui voilà. Ne recevrons-nous pas, Serge Lebekech ? Ne le cachez pas aux auditeurs, faut-il là. Et savez-vous pourquoi ?
Mais j'en ai une vague idée, il est momentanément retenu. Il est retenu.
Il est retenu en garde à vue. L'ancien président
alors,
de
non, le titre,
racisme.
Il faut quand même dire une chose, le titre du Monde est admirable. Vous avez vu le titre du Monde?
De retenue.
Ah, de retenue, il est splendide, c'est... Il n'y avait pas d'ecstasy chez Faut... Non, pas de crack chez Faudécil. C'est extraordinaire. C'est vraiment...
Non, je ne l'ai pas lu, Serge, parce qu'on se partage le travail. Vous lisez Le Monde, moi je lis Le Parisien et Le Canard Enchaîné.
Ah oui, mais ça c'est une question de...
Alors on termine en 3 secondes. L'information des auditeurs qui ne lisent ni Le Monde ni Le Canard Enchaîné. L'ancien président de SOS Racisme, Faudécil, est en garde à vue pour une affaire de trafic de drogue dure, crack, héroïne. Vous savez, ce crack qui a conduit un jeune homme il y a 15 jours a coupé sa mère de 67 ans en morceaux avant de sauter par la fenêtre.
Comme et quoi, pour ça l'instant, ça rend pas paresseux le crack.
Non, non, non. Il est toujours membre du Conseil économique et social.
Oui,
rassurez-vous.
Grâce à Chirac.
Mais sinon, comment est-ce qu'il achèterait ses doses?
Qui se ressemble, ça semble.
Puisqu'il a avoué qu'il était consommateur. Pour l'instant, l'interrogatoire continue.
Alors, on me demande de donner des nouvelles de la fête de Radio Courtoisie. Bon, c'était un succès formidable, mais c'est pas à moi de vous le dire, parce que moi, j'étais dedans, si j'ose dire. Je voudrais donner la parole à quelqu'un qui a découvert à la fois la fête de Radio Courtoisie et Radio Courtoisie, qui est le docteur Masqui. Bonsoir, docteur. Allô, êtes-vous avec moi?
Vous m'entendez?
Ben oui, je vous entends. Enfin, je vous entendais pas, mais maintenant, je vous entends.
Voilà.
Alors, vous m'avez téléphoné pour me dire que vous vouliez prendre la parole quelques minutes en début d'émission, pour dire votre sentiment sur cette fête de Radio Courtoisie.
Non seulement sur la fête de Radio Courtoisie, mais sur mon passage le 1er juin à Radio Courtoisie. Les remerciements à Jean Ferré, à toute l'équipe, y compris les standardistes. Je vous remercie, monsieur de Becquet. Je n'oublie pas, naturellement, la conférence du 3 juin qui a attiré beaucoup de monde, les séances de dédicace de mon livre à la librairie France Livre, et ensuite à la journée de Radio Courtoisie, où vraiment j'ai fait des dédicaces qui ont dépassé toutes mes espérances. J'espère que les personnes qui lisent mon livre ne seront pas déçues.
Votre livre consacré à la pollution électromagnétique aux élections France Europe, rappelons-le aux auditeurs qui ne le sauraient pas.
Ça s'appelle « Combat pour une idée ». La pollution électromagnétique dans lequel je résume 40 ans de lutte. Et d'ailleurs, le point de départ de ma venue à Paris a été de lancer une véritable campagne que j'intitule « Halte à la pollution électromagnétique ». Nicolas Hulot a lancé il y a quelques semaines son défi pour la Terre. Eh bien moi, aujourd'hui, je lance la campagne « Halte à la pollution électrique ».
Vous avez déjà quelques promesses de soutien vigoureux de la part de personnalités?
Mais vous savez, depuis 40 ans, j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de soutien. J'ai d'abord eu le soutien des malades, ce qui est principal. J'ai eu le professeur Thouvenot de Tours, j'ai eu des quantités de personnes. Mais je lance cette campagne parce que depuis 35 ans, le ministère de la Santé, les responsables de la Santé, refusent toujours de s'intéresser à ces problèmes. Et en particulier, l'obstruction vient également des professeurs spécialistes de la sclérose en plaques qui ne veulent jamais reconnaître ma théorie, alors que la pollution électrique augmente d'une façon considérable et que parallèlement, la sclérose en plaques augmente encore.
Je voudrais revenir un instant sur la fête. Quel sentiment en avez-vous tiré? Je ne parle pas simplement pour votre compte personnel, mais quelle ambiance avez-vous trouvé? Vous qui êtes un habitué des rencontres, des signatures, des conférences, avez-vous trouvé que les auditeurs de Radio Courtoisie qui étaient présents à cette fête ont un trait particulier?
C'était extraordinaire. D'abord, j'ai été ahuri par l'importance des salles. C'était énorme. J'avais jamais vu autant d'auteurs réunis. C'était vraiment extraordinaire. Et puis, l'ambiance très sympathique. Puis, une petite chose toute amusante. La personne qui était à côté de moi, qui a écrit un ouvrage sur les flibustiers, se trouvait être vivre en même temps que moi à Tulère.
Oui, parce que voilà, c'est très amusant. Vous nous aviez raconté le soir où vous êtes venu, d'ailleurs, juste avant lui, que vous aviez fait vos débuts comme médecin.
Et lui, voilà. Était tout enfant là-bas.
Vous l'avez peut-être soigné, en somme.
Non, parce que mon père était gendarme, je l'avais pas soigné.
Vous ne soigniez pas les fils de gendarmes, c'est une...
Non, mais les fils de gendarmes se soignaient avec le médecin militaire. Moi, j'étais civil.
Est-ce que, alors, vous ne confirmez pas que la médecine militaire est à la médecine, ce que la musique militaire est à la musique?
Ah non, vraiment, moi j'ai un beau-frère qui était médecin militaire. Les médecins militaires ont fait un travail extraordinaire dans les colonies.
Je ne croyais pas si bien dire, Serge, parce que très fréquemment, dans les colonies ou les pays en voie de développement, on pratique une médecine de guerre ou apparentée d'anciens médecins de guerre, parce que les conditions sont comparables.
Est-ce que vous, qui savez tout, Patrick, vous êtes capable de me rappeler l'éditeur et le nom de...
C'est France Europe Édition, n'est-ce pas, à Nice.
Oui, mais oui, je parle de son voisin qui avait écrit Corset et Flibustier.
C'est une maison d'édition qui édite uniquement des... Il s'appelle Pouillade.
Pouillade.
Voilà,
oui.
C'est l'auteur, ça.
Une édition qui édite uniquement des livres de marine.
Pouillade, c'est l'auteur, oui. Pouillade, c'est l'auteur, absolument. La maison d'édition, elle a un nom étrange, Sophis ou quelque chose comme ça, je crois.
Ofris,
peut-être. Enfin, si quelqu'un s'en souvient, qu'il soit gentil de me téléphoner pour me le dire, ça me permettra de le rappeler à nos auditeurs.
Je me permets de vous interrompre pour dire, vous savez que j'ai dit qu'il fallait pas les vêtements ni dans tout. Je rappelle que pour éviter justement cette pollution électromagnétique, il suffit d'ouvrir le robinet, de se mettre les mains sous l'eau. On est à la masse tout de suite. Alors si les gens ne veulent pas changer leur garde-robe, qu'au moins 4-5 fois par jour, ils ouvrent leur robinet, ils se mettent les mains sous. Je vous laisse maintenant parce que...
Merci beaucoup.
Vous aviez beaucoup, beaucoup de... Et je crois qu'on n'est pas prêt de s'arrêter de correspondre.
Merci docteur, merci de votre gentillesse, de votre présence et merci de ce que vous faites, bien entendu.
Au revoir.
À bientôt. Voilà, c'était donc le docteur Jean-Pierre Mas qui a découvert dimanche à la fois la radio, ses auditeurs, et là, il nous l'a dit, l'importance incroyable que prend cette fête du livre de Radio Courtoisie, qui est vraiment un événement énorme dans le monde de l'édition, probablement, et puis dans le monde de la radio aussi. Et bien maintenant, nous appelons Éric Lebec. Éric Lebec, êtes-vous avec nous?
Oui, Serge, je vous entends.
Bien, ce téléphone marche vraiment d'une façon exceptionnellement efficace. Okay. Vous avez publié Benoît XVI, les défis d'un pape. Vous l'avez publié 15 jours après l'élection de Benoît XVI. Techniquement, comment est-ce possible d'écrire un livre aussi important, aussi complet? Je l'ai lu, il est d'abord remarquablement écrit, il est ensuite très très complet et très précis. Comment peut-on faire ça en 15 jours?
Je vous remercie, parce que j'ai commencé en 1998. C'est-à-dire qu'en 1998, Jean-Daniel Belfond, qui avait lu l'histoire secrète de la diplomatie vaticane, publiée chez Albin Michel, s'est dit « il y aura un pape après le pape ». Ce qui est quand même assez surprenant.
Oui, bon. Jusqu'à présent, c'est pas vraiment de la voyance.
Oui, mais enfin, bon.
Ça relève plutôt de quelque chose d'assez prévisible, mais avez-vous prévu Benoît XVI?
Alors, j'ai donc, si vous voulez, fait un canevas dans lequel j'ai établi qu'est-ce que c'est que la papauté sur laquelle règne tout un tas de mythes, d'erreurs, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter au monde et à l'Église? Quels sont les cardinaux en présence? Et quels sont les jeux de pouvoir, d'influence, qui sont d'ailleurs des jeux d'influence de bonne volonté. Il faut bien se dire que les cardinaux, même les plus éloignés des opinions catholiques, sont des gens qui sont très convaincus. C'est même grave d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas trop les faire changer d'avis, n'est-ce pas? Et j'ai donc, depuis 98, maintenu ce livre à jour. Et puis quand le Saint-Père Jean-Paul II a commencé à décliner assez sévèrement, j'ai pris 15 jours de congé de chez mon employeur pour pouvoir mettre à jour tout ce qu'était le pontificat de Jean-Paul II. Et ici, il y a eu une erreur énorme, une erreur commerciale absolument énorme. C'est-à-dire que le titre, on voulait pas prévendre, donner l'idée à quelqu'un d'autre qui allait faire du copier-coller avec des dépêches. Je ne citerai bien entendu absolument aucun confrère. Il a été titré Les secrets du conclave. Alors, j'ai expliqué à mon éditeur que si j'avais connaissance des secrets du conclave, je ne les révélerais pas. Que donc mon livre serait très court et qu'il serait très triste. Bon, il n'y a rien eu à faire. Bon, si bien qu'aujourd'hui, les vendeurs dans les librairies qui ne lisent pas les livres, bon, comme les pharmaciens mangent pas leurs médicaments d'ailleurs,
oui, c'est
ça se comprend. Bon, donc les vendeurs dans les librairies, et je l'ai fait l'expérience tout à l'heure à la Croix, disent ah bah il y a tel livre, et puis quand il arrive au livre d'Éric Lebec, il dit ah bah ça c'est pas une bio, c'est le bilan de Jean-Paul II. Bon, alors il y a quand même un petit souci, c'est que le cardinal Ratzinger, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour lui, je ne permets pas de dire avec lui, parce qu'il y a une différence de distance, n'est-ce pas, assez considérable. J'ai eu avec lui des relations privées, j'ai même porté ses valises, je ne savais pas si elles étaient lourdes de dossiers d'hérésie ou de saucisses blanches de Bavière, puisque c'est son plat préféré. Le cardinal Ratzinger est un homme d'une douceur, d'une courtoisie, d'une gentillesse absolument extraordinaire. Nous sommes restés un petit peu en relation, surtout indirect. Et puis, j'ai préparé, pour préparer mon livre, j'ai préparé 3 candidats, n'est-ce pas ? Et je me suis trompé entièrement. C'est-à-dire que c'est le cardinal Ratzinger qui a été élu pratiquement par acclamation. Mais enfin, comme il se trouve que je le connais, comme il se trouve que j'avais quand même beaucoup de documents et que de toute façon c'était déjà un personnage considérable, mon livre était presque prêt. J'ai travaillé jour et nuit au grand déplaisir de ma femme et de mon petit garçon. Et puis j'ai livré le livre à temps. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre au téléphone une seconde ? Il y a avec ce livre.
Interrompez-vous-même, là, je vous dis, parce que j'ai rien dit.
Oui, mais je m'attendais que je sentais à mon bavardage qu'il était temps d'entendre votre guébabile. Et ce livre est continuellement mis à jour tous les jours par un truc qui s'appelle un blog, B-L-O-G, qui a été fait par un ami, qui est un ami de Radio Courtoisie, qui s'appelle Xavier de Masneau.
Ah, bien sûr.
Bon.
Garçon
remarquable, qui porte le nom d'un grand saint évêque de Marseille, n'est-ce pas ? Dont on espère qu'il s'occupera de son successeur, puisqu'il va falloir nommer un successeur à Monseigneur Panafieux, qui est un saint homme d'ailleurs. Et ce blog est mis tous les jours à jour, les gens me posent des questions, je réponds, et ça permet, si vous voulez, aux gens qui ont acheté la première édition, qui est épuisée, parce qu'on a vendu plus de 10 000 exemplaires en moins d'une semaine, malgré la mauvaise volonté des libraires.
J'allais dire, heureusement que les libraires ont fait une erreur de marketing, parce qu'autrement, on aurait épuisé toutes les forêts de France à retirer le peuple.
Autrement, il aurait fallu commencer à couper du bois. Bon, donc, il y a une réédition, j'ai apporté un certain nombre de modifications, de précisions, etc. Je dois reconnaître, quelle était cette journaliste, vous savez, qui je crois marchait pieds nus, qui disait tout le temps, attendez-vous à savoir...
C'était Geneviève Tabouy.
Elle disait ça, j'attendez-vous à savoir. Ah,
attendez-vous à savoir.
Attendez-vous à savoir. Et alors moi,
elle se trompait avec une régularité digne d'un meilleur sort.
Bien, je vous remercie de m'encourager. Donc, alors moi, je commence mes chroniques en disant, comme vous avez pu le lire dans mon livre, le pape Benoît XVI vient de prendre telle décision. Et voilà. À tel point que on va se demander si Benoît XVI me téléphone avant de signer les décrets. Je dois reconnaître que non. Mais je vais. Oui, vous voulez dire, vous voulez poser une question.
Là, je voulais pour le coup vous interrompre.
Vous avez raison.
Si vous deviez, exercice difficile, définir en un mot le pape, ou en deux, quelle est, selon vous, sa qualité principale ?
C'est Saint Benoît.
Quel est son défaut le plus avouable ?
Il lui arrive de faire des fautes d'accord au piano. Il joue tous les jours au piano.
On va lui envoyer Pierre-Marie, qui lui apprendra les bases.
Il passe tous les jours une heure de piano, ce qui est d'abord une marque de très grand équilibre, et ce qui est aussi une marque de très grande humilité, parce que ça consiste à dire, je suis un mec vachement important, j'ai des dossiers vachement importants, mais une heure de piano, quand même, j'y verrai plus clair après.
Est-ce que vous croyez qu'il va rompre la loi du Vatican qui interdit les animaux pour faire venir son chat ?
Je pense qu'il va mettre fin à ce décret inique que le pape Paul VI de vénérée mémoire avait pris dans un instant d'égarement où il avait interdit les animaux familiers. Il faut reconnaître que les serins de Pie XII étaient très mal élevés. Ils sortaient régulièrement de leur cage, faisaient pipi et le reste partout, venaient manger sur sa table et il était temps qu'un souverain pontife mette fin à ce scandale.
Bien, dernière chose, est-ce que ce que vous pensiez de son action, ce que vous prévoyez de son action, semble, si on peut en parler déjà, se confirmer un tout petit peu ? Je vous pose la question parce que la nef publie un article où j'ai carrément piqué la question d'ailleurs. Les premières décisions du pape Benoît XVI indiquent-elles que l'Église va changer? Et si oui, dans quel sens?
Bon, alors l'Église militante va changer, sans doute, oui, bien sûr. Alors, j'ai été interviewé hier, fort aimablement d'ailleurs, par une fort jolie fille, Monsieur Cher,
J'ai entendu cette émission sur Radio Notre-Dame, oui. Où cette ravissante journaliste, qui évidemment assure moi l'avantage d'être ravissante, avait
un cheveu sur la langue.
Non, pas, je ne sais pas si elle avait un cheveu sur la langue, mais en tout cas, elle avait un désavantage par rapport à moi, c'est qu'elle vous appelait avec beaucoup d'insistance, Monsieur Lebel.
Oui, je
sais que par ailleurs, vous êtes un bon fusil, mais enfin, c'est quand même.
Je lui ai dit, écoutez, au bout d'un moment, mon nom s'appelle Lebec, et il y a des gens qui sont tombés dessus, qui se sont fait très mal. Donc voilà. Je vais vous prendre quelques exemples. J'ai écrit dans mon livre que désormais le poids intellectuel et je dirais même spirituel à certains égards de l'Église est aux États-Unis. Ça vous plaît pas entièrement parce que aux États-Unis il y a le meilleur et le pire et vous connaissez bien le pire. Mais il y a aussi des gens formidables et en particulier celui qu'il a choisi pour lui succéder à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Monseigneur Levada, qui est connu pour une thèse de doctorat assez considérable qui doit faire 110 pages en très gros caractères, rappelle que tout simplement autrefois, c'est le pape en personne qui est le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et qu'on est revenu par conséquent à une situation normale où il n'y a pas une espèce d'opposition entre l'homme qui est le gardien de la doctrine et puis celui qui en est le préfet. Vous voyez, donc ça c'est considérable. Deux petites décisions toutes récentes mais qui vont amuser vos lecteurs. La première, c'est que il y a une abbaye bénédictine qui s'appelle Saint-Paul hors les murs. C'est un endroit splendide. Il y a plein de touristes et le pape qui a choisi le nom de Benoît vient de nommer des prêtres séculiers dont le cardinal qui a dessiné ses armes pour s'occuper des touristes de telle sorte que les moines soient moines, qu'ils prient, qu'il soit en silence, qu'il fasse pénitence, ora et labora, selon Saint Benoît, voyez-vous. Et je constate sur mon blog, puisque c'est comme ça que ça se dit, que les monastères bénédictins s'abonnent par centaines, j'en suis à un millier d'abonnés, de gens qui lisent le blog, qui regardent, qui me posent des questions, peu de questions d'ailleurs, c'est généralement des compliments que j'accepte avec l'humilité qui me distingue et qui rend tout le monde jaloux autour de moi. D'autre part, le Saint-Père, n'est-ce pas, a décidé que dans les rites catholiques orientaux, désormais, on pourrait transférer un évêque d'un diocèse à l'autre sous la seule autorité du patriarche. Autrement dit, les rites orientaux reprennent leur pleine autonomie. Et ça, vis-à-vis de l'orthodoxie, qui considérait que les latins de rite, que les romains de rite oriental étaient des espèces de faux orientaux, c'est extrêmement important. Ça montre que le Saint-Père est un homme d'Europe centrale, ça montre qu'il est ouvert. C'est ce que, comment est-ce qu'il s'appelait, Éric Arzel avait dit, Jean-Paul II, vous lui
l'avez dit. Orateur du livre journal.
Oui, oui.
Très, très remarquable, vous devriez le rencontrer d'ailleurs.
Oui, mais enfin, je crois qu'il s'est pas mal trompé sur Tétamanzi, hein.
Bah oui, mais il n'avait pas lu votre livre, alors, bien évidemment. Il n'était pas encore publié.
Oui, c'est vrai. Enfin, bon, il a une petite excuse. Bon, enfin, j'ai beaucoup ri. Et donc, quelques autres aussi. Donc, ce que Jean-Paul II a voulu, la réconciliation avec l'Orient, avec la mystique, avec l'intériorité, eh bien, peut-être que Benoît XVI est en train de le faire. Et puis, voyez-vous, dans la règle de Saint-Benoît, que connaît admirablement, évidemment, le pape Benoît XVI, il y a une erreur à la dernière page de mon livre, pour laquelle j'ai failli. Heureusement, j'étais très loin dans mon île bretonne, ce qui a sauvé la vie de mon éditeur. Il y a 77 conseils spirituels qui sont un chapitre, le chapitre 4 des instruments de la perfection. Et ça se termine De misericordia Dei numquam desperari. Ce que vous traduisez bien entendu.
De la miséricorde de Dieu, ne jamais désespérer.
Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Et voilà que par un démon typographique,
de ma cruelle,
n'est-ce pas, on avait oublié le 2. Ne jamais désespérer la miséricorde de Dieu. Alors, la miséricorde de Dieu, elle se désespère pas. Enfin, je veux dire, c'est la miséricorde de Dieu est miséricordieuse. La miséricorde de Dieu, c'est pas un piège qui cacherait une justice qui serait encore plus rigoureuse que la miséricorde, enfin, oui, etc. Et par conséquent, Et je vais terminer parce que je crois que vous m'avez laissé encore une minute, non?
Oui, c'est ça. Vous êtes dans les temps, mais profitez-en.
Vous êtes très aimable.
Je trouve aussi.
La règle de Saint-Benoît, il y a un chapitre très particulier sur le père abbé. Et dans ce chapitre, il est dit que le père abbé ne soit pas jaloux, car si le père abbé est jaloux, il ne connaîtra jamais le repos. Or, s'il y a une qualité absolument immense et qui est malheureusement à l'opposé du caractère français, c'est que Benoît XVI n'est pas jaloux. Et que d'autres fassent du bien, que d'autres soient heureux de faire du bien, qu'ils soient joyeux de faire du bien. Ce bonheur de la Bavière, cette joie de la Bavière, n'est-ce pas, c'est extraordinaire. Je suis allé en Bavière plusieurs fois, j'ai bu...
Des bonnes choses ?
De la bière. Bon. Dans un monastère bénédictin en particulier, c'était un ancien prince allemand. Une petite plaisanterie, vous me permettez. L'aristocratie bavaroise, c'est du sérieux de ses sérieux. Hein. Il y a le Gotha, ça remonte à tout. Il y a quand même un truc qui m'a fait tout à l'heure, mais mourir de rire, c'est qu'il y a une association de la noblesse pontificale. N'est-ce pas? Et là-dedans, un monsieur qui s'appelle Monsieur Desgrottes. Je suppose qu'il manque pas de papier. Bon. Hein. Cette association de la noblesse pontificale a été fondée quelque part en 1986. Et la dernière personne anoblie par un pape, c'est Rose Kennedy, la femme, la mère du président Kennedy. Et ça se passe en 1951, n'est-ce pas? Alors, moi, je comprends très bien qu'il y ait une noblesse, etc. C'est parfait. Bon. Mais enfin, aujourd'hui, le pape est régnant. C'est-à-dire qu'il pourrait créer des nobles. Il pourrait aussi en déchoir, n'est-ce pas? Il pourrait aussi en envoyer quelques-uns à la bassesse de l'État roturier, à des métiers serviles. Je plaisante évidemment, parce que aujourd'hui ce qui compte c'est quand même la noblesse du cœur et la noblesse de l'âme, mais je dois reconnaître que Benoît XVI, il marchera pas là-dedans, parce que
moi j'espérais toucher quelques particules de plus, voire quelques parties tête pour les services rendus à Benoît XVI, mais c'est raté alors.
Je crains que vous ayez des difficultés, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si quelqu'un se présente au protocole avec un titre, on va peut-être lui demander ses papiers d'identité avant. Bon, enfin, ça, c'est un peu secondaire. En revanche, ce qui est quand même extraordinairement important, c'est, et ça commence à rayonner, les gens n'ont pas encore beaucoup d'affection pour Benoît XVI. Ils le voient comme ça. N'est-ce pas parce que Jean-Paul II, il y avait un sentiment immédiat pour la Pologne, voyez-vous. La Bavière, nous ne connaissons pas bien la Bavière. C'est extrêmement dommage. Il ne faut pas oublier que la Bavière, le drapeau de la Bavière, n'est-ce pas, c'est la Sainte Vierge. C'est un damier bleu et blanc. C'est le pays de la Vierge, c'est le pays de la joie. Il y a des fresques splendides sur les fermes, sur les granges, etc. Quand j'étais petit, il y a pas très très longtemps, j'ai marché à pied, figurez-vous, de Innsbruck à Munich. Bon, j'ai dormi dans le foin, ce qui est une erreur, car quand le foin est frais, il est plein de petites bêtes. Bon, j'étais très 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 dévoré. Mais lorsque nous étions une petite bande de scouts et qu'on essayait de faire quelques courses pour faire quelque chose, on avait un mal fou à payer parce que les Bavarois vous disaient vous êtes français. Je dis mais vous êtes. Et ils me disaient mais vous êtes mon invité. Je dis mais monsieur, alors avec notre allemand, très bien. Avec Monseigneur Graber et avec de Ratisbonne, je parlais latin. Enfin c'est surtout lui qui a parlé latin. Hein. Bon. Moi j'ai surtout.
C'est dire.
Moi j'ai surtout dit Deo gratias uticue. Reverendissimum domine, enfin bon, je suis pas allé très loin, quoi. Bon. Voilà un petit peu. Donc, Benoît XVI, c'est une vraie biographie, c'est un vrai portrait, et c'est un homme qui va être aimé.
Eh bien, Dieu vous entende, et puis le peuple chrétien. Merci, Éric Lebec.
Alors, merci de m'avoir téléphoné. Et, ah oui, le blog. J'ai donné l'adresse du blog.
Non, il faut vous la donner pour les amateurs de ce genre de choses.
Oui, et puis enfin, Xavier de Masneau va me téléphoner tout à l'heure, ça va être très grave. Le blog, il est très modeste. Il s'appelle Benoît XVI. Benoît sans accent circonflexe. 16 en chiffre arabe. Nobody's perfect. Ah, okay. Le livre. En un mot, Benoît XVI, le livre en un mot, sans accent circonflexe, le livre sans modestie.
Merci, merci Eric.
Et tous les jours, je rajoute des petites nouvelles, et puis je réponds aux gens. Je réponds systématiquement.
C'est une bonne idée. Mais le livre, on peut lire le livre quand même, on n'est pas obligé d'aller sur le blog, ou le livre n'est pas, je vous signale quand même.
Ah oui, le livre n'est pas sur le blog, il ne faut quand même pas arriver. Oui.
Mais donc, je vous propose d'en rappeler les références.
Oui.
Je vous propose d'en rappeler les références, d'autant plus que Eric Lebec est un de ces auteurs qu'on n'a pas besoin de joindre par correspondance, d'acheter par correspondance, comme tant de vos invités.
Oui,
son livre est bien en place dans les librairies. Il nous a expliqué tout à l'heure qu'il venait d'être réimprimé. Donc, il est en place partout dans les FNAC et dans les toutes petites librairies comme dans les moyennes. Il s'agit donc de Benoît XVI, Les défis d'un pape, par Eric Lebec.
Aux éditions de l'Archipel.
Bravo.
Et je voudrais remercier, mais je ne sais pas s'ils nous écoutent beaucoup, les vendeurs de la FNAC qui sont peut-être pas très écouteurs de radio.
Détrompez-vous. Ils me murmurent à l'oreille à chaque fois que je les rencontre. Beaucoup d'entre
eux. Eh bien, les vendeurs de la FNAC qui eux sont des libraires, c'est-à-dire qu'ils lisent les livres à la différence de beaucoup d'autres, n'est-ce pas, ont mis ce livre en tête de gondole.
C'est un peu normal pour un pape italien. Enfin, ça aurait été mieux.
Enfin, il n'y a pas de Venise.
Ben non, ça aurait été mieux du temps de... c'était Jean-Paul Ier qui...
Jean-Paul Ier venait de Venise, de martyr mémoire. Et puis, le bienheureux Jean XXIII.
Pastor et Nauta.
Pastor et Nauta, ouais.
Merci encore, Eric Lebec. À bientôt. Vous viendrez nous voir en chair et en os dans ce studio. Ça sera plus amusant la prochaine fois.
Vous êtes bien aimable. Je vous remercie de m'avoir téléphoné.
Nous passons à tout autre sujet maintenant. Je voudrais d'abord faire une petite... ça va? Ça vous dérange pas que je parle pendant que vous toussez?
Excusez-moi.
Pour une fois que c'est pas
maintenant
moi qui tousse.
C'est moi qui tousse à votre place.
J'ai écouté une partie du discours de Monsieur Villepin. Alors c'est naturellement sans surprise, mais je pensais à ça. En fait, il y a un moment où les députés ont applaudi, c'est quand il a fustigé les chômeurs qui ne sont pas assez enthousiastes à l'idée de reprendre du travail. Et j'ai trouvé ça... Bon, c'est normal de dire ça, il a raison, c'est vrai. Mais enfin, quand on entend les députés applaudir ce genre de choses avec acclamation, on est quand même un petit peu scandalisé. Parce que on va demander encore un effort aux Français. On nous a déjà annoncé, à la surprise générale, que la promesse de Chirac de faire diminuer, de faire baisser les impôts de 30%, l'impôt sur le revenu de 30% ne serait pas tenue. Moi, je suis tombé littéralement de ma chaise quand j'ai entendu ça. Mais c'est comment une promesse de Chirac qui ne sera pas tenue? Pour une chose pareille est-elle possible? Et donc, on va demander aux Français encore un effort. Mais j'ai pas entendu M. Villepin dire aux députés, écoutez, on va faire une chose, eh bien, on va nous aussi faire un effort. Hein. C'est-à-dire qu'on va réduire, par exemple, de 30 ou 40% les revenus, ça aurait été démagogique, mais ça aurait été intelligent, de tous les gens qui vivent comme des morpions sur le dos, et encore, je suis poli, des Français. Alors, on aurait pu dire, par exemple, qu'un parlementaire européen, un député, qui gagne à l'heure actuelle pour son seul travail de député, parce qu'il a des indemnités supplémentaires, je vais vous dire. Il gagne 6 769 euros, pratiquement 6 800 euros. À quoi il faut quand même ajouter une indemnité de représentative de frais de mandat qui est de 6 112 euros, ce qui multiplie par deux. Bon. Ensuite, une rémunération des collaborateurs qui est de 8 553 euros. Plus 4 780 euros par an pour les frais de téléphone, plus une carte gratuite pour voyager dans les transports SNCF et en avion, plus un logement à 45 euros la nuit dans un hôtel qui s'appelle le Palais Bourbon, enfin qui est tout près du Palais Bourbon et qui n'est pas, à proprement dit, l'hôtel des Trois Canards. Et puis en plus, la retraite et une caisse de sécurité sociale et une mutuelle. Et quand il a fini d'être député, il continue à être salarié. Alors on leur aurait dit, bon, vous allez abandonner 20% de ça pour aider un peu à faire face. Plutôt que de faire travailler les gens le jour de la Pentecôte, alors que les gens n'ont rien foutu, bien entendu, ils ont eu bien raison, ça va peut-être aider un petit peu. Le président de la République, lui, c'est 6 594 euros, plus naturellement les... Enfin, vous m'avez compris, hein. Disons que ça, c'est 20 l'ont compris. Voilà. Le président du Conseil général, 5 227 euros. Le président du le président de communauté urbaine ou d'agglomération, c'est 5 227 €.
Et Faudestilla, simplement, du Conseil économique et social.
Il n'y est pas vous encore. Il va les garder, mais il n'y est pas vous encore. Un maire d'une ville de moins de 100 000 habitants, c'est 3 960 €. Alors, arrêtons-nous là. Simplement, avec en réduisant un petit peu les revenus des députés, des sénateurs, des ministres, du président de la République, du Premier ministre, cessant de leur apporter encore un peu de rillettes pour mettre sur le beurre qu'il y a sur le pain, on aurait peut-être pu réaliser des économies sérieuses. Et en tout cas, quand on se graisse comme ils le font, on a la pudeur de pas applaudir quand on annonce des sanctions contre les chômeurs. Parce que ça, je vous le dis, messieurs les députés, si vous m'écoutez, enfin ceux qui m'écoutent, c'est le meilleur moyen de vous faire péter à la gueule vers le mois de septembre-octobre, ce qui est en train de couver dans le pays. Je ne sais pas si vous sortez parfois de vos limousines ou de vos hôtels 3 étoiles, mais si ça vous arrive, vous devriez découvrir assez rapidement que les Français en ont mais plus que par-dessus la tête de votre arrogance, de votre crapulerie. Quand on pense qu'en ce moment même, il y a un procès pour l'affaire des lycées d'Île-de-France, qui a d'ailleurs été provoqué par une dénonciation, ce procès a été provoqué par la dénonciation du Front National. Par une dénonciation faite par le Front National, et en l'occurrence par, à l'époque, Jean-Yves Le Gallou, qui a dit, mais il se passe des choses scandaleuses. On touche des pots de vin, on verse des pots de vin aux partis en place pour avoir des marchés de la construction des lycées d'Île-de-France. Là, on annonce des sanctions. Il va y avoir naturellement un ou deux boucs émissaires. On va sanctionner des chefs d'entreprise. Et on nous explique que cette enquête qui dure depuis des années n'a pas été foutue d'établir que les trésoriers des partis avaient touché du fric. Mais c'est vraiment nous prendre pour des abrutis, mais nous prendre pour des imbéciles. Il y a à l'heure actuelle au pouvoir une véritable bande de mafieux. Ce sont des mafieux. Et ce sont des gens, ces mafieux-là, une fois qu'ils sont, qu'on leur propose de réduire encore, de rendre encore plus difficile la vie des chômeurs et la vie des gens qui travaillent, tout simplement, ils applaudissent et ils acclament le Premier ministre. Mais ils se foutent de qui? Ils croient que ça va durer jusqu'à quand?
Serge, permettez-moi de prolonger un petit peu le sujet du chômage et de l'action des 100 jours que Villepin s'est donné publiquement pour, sinon en venir à bout du moins, le faire reculer de façon décisive. En effet, comme vous venez de l'expliquer, le chômage pour le gouvernement, il faut traduire, il faut interpréter le langage de ces gens, qui est un langage, mais vous savez, comme dans les vieux empires chinois ou japonais, il y a un langage de cour que les gens, ou même un langage d'église, par exemple le slavon dans l'église russe, que les gens ordinaires ne comprennent pas. Donc il faut traduire, il faut expliquer que quand le gouvernement, quand monsieur de Villepin nous parle du chômage, il veut parler des statistiques du chômage, bien entendu. Et comme vous venez de le dire, on va faire reculer les statistiques du chômage. Et d'ailleurs, c'est tout à fait officiel. Monsieur de Villepin a expliqué qu'il allait reprendre une mesure préparée déjà sous Raffarin qui s'appelle le suivi des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'on va contrôler s'ils cherchent un emploi assez activement, de façon à pouvoir les chasser en plus grand nombre des statistiques. En ce qui concerne ces statistiques, on nous parle de 2 200 000, 2 300 400 000. On chasse les gens des statistiques par ces moyens-là. On ne compte pas dans le chômage les gens qui sont en pré-retraite. On ne compte pas les gens qui sont dans des stages, les jeunes comme les vieux qui sont dans des stages bidons, etc., etc. Le chiffre réel avoisine, approche les 6 millions de chômeurs. C'est dire à quel point ces chiffres sont faux. Les fonctionnaires du ministère du Travail, je cite un article du Canard Enchaîné, j'en cite 5 lignes si vous êtes d'accord. Les fonctionnaires du ministère du Travail qui soumettent à leurs ordinateurs les idées du gouvernement ne croient pas une seconde non plus. Ça tombe bien, 79% des Français n'y croient pas non plus. C'est un sondage qui est sorti aujourd'hui, ça veut dire 8 sur 10 à peu près. Ne croient pas une seconde à la réussite de Villepin. Si les ordonnances qu'il concocte restent dans les schémas tracés par le MEDEF et s'il ne lance pas une vraie politique de traitement social déjà esquissée sous Raffarin par Borloo. Un fonctionnaire anonyme du ministère du Travail a dit au Canard Enchaîné « Alléger les charges et assouplir le code du travail ne servira à rien compte tenu des nouvelles projections de croissance. Le seul moyen efficace pour créer des emplois pourrait consister dans un recours massif aux emplois aidés dans le secteur non marchand. Mais cela nécessiterait de revoir la promesse des impôts promise par Chirac. » Et pour finir, si vous m'accordez encore 10 secondes, je trouve dans le même Canard Enchaîné, je suis désolé de leur faire cette publicité, mais je crois que de temps en temps, on peut leur donner un franc vin, un florilège de déclarations de M. Chirac sur le chômage. Je vais lire deux lignes à chaque fois. 7 mai 95, Monsieur Chirac déclare, notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. 31 décembre 95, depuis 7 mois, notre priorité, c'est l'emploi. 31 décembre 96, faire reculer le chômage est mon objectif essentiel. 2 mai 2002, nous payons cette situation d'un prix élevé, celui du chômage, ne laissons pas s'aggraver cette situation. 31 décembre 2003, priorité, l'emploi. 31 décembre 2004, pour la première fois depuis 2001, le chômage a été stabilisé, c'est-à-dire que les statistiques ont été truquées avec plus d'efficacité. Excusez-moi cette intervention un peu longue et un peu passionnée. Je suis moi-même chômeur à temps partiel.
On peut dire que, au fond, cette affaire du nouveau gouvernement, c'est un combat de cocu contre cocu. Il y a 50 millions de Français qui sont cocus contre un ministre. Je ne donne pas de nom, vous avez remarqué, parce qu'il fallait que je donne le nom des 50 millions de Français, ça serait trop long, et par esprit de justice, je ne donnerai donc ni l'un ni l'autre. Voilà, changeons de sujet. Pas vraiment, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire, Christian Pérez, puisque vous êtes l'un des fondateurs, avec Franck Timmermans, du Parti populiste. Ça doit vous concerner quelque part.
Oui, vous avez parlé de Villepin. On serait tenté, puisqu'il a lui-même fait allusion aux 100 jours qu'il se donnait pour redonner confiance aux Français, qu'il se souvienne du fait que qui a mis fin aux 100 jours sous l'empereur, c'était son ministre de l'Intérieur qui s'appelait Fouché et qui aujourd'hui porte un autre nom. Je pense que l'avenir de Monsieur Villepin sur ce plan-là risque fort de se terminer à l'île d'Elbe. Mais
surtout, la fin des 100 jours, sauf erreur de ma part, c'est Waterloo.
Oui, c'est tout à fait.
Enfin, ça, Waterloo, que ce soit Fouché qui mette fin ou Sarkozy qui mette fin à l'expérience Villepin, personnellement, je m'en tape parce que ça n'aura strictement aucun effet dans la vie quotidienne.
Aucun.
Mais en revanche, un Waterloo français, ça va être un Waterloo plus, ça risque d'être fatal pour notre pays. Alors, vous avez fondé, donc, avec quelques amis, un parti populiste qui est une nouvelle formation politique. Ça peut paraître, je ne sais pas, une initiative étrange. S'il y a quelque chose dont on manque pas en France, c'est les partis, et notamment du côté où je penche.
C'est évident.
Qu'est-ce qui vous a inspiré cette décision de créer un nouveau parti?
Je crois que pour comprendre notre initiative, il est nécessaire de partir d'un constat qui est le constat de la situation actuelle du camp national. Qu'est-ce que le camp national à nos yeux? Je dirais que c'est l'ensemble des tendances politiques, philosophiques et même religieuses d'ailleurs qui avaient été fédérées au début de l'aventure exaltante qu'a été le Front National. Malheureusement, au sein du Front National, il y a eu des erreurs, notamment dans la gestion des rapports au plan humain. Ces erreurs ont abouti à la scission catastrophique de 1998. Et depuis, le camp national va mal. Il va mal politiquement, il va mal électoralement. Ces deux composantes principales que sont le FN et le MNR ont fondu. Le discours du Front National a vieilli, il a perdu beaucoup de sa pugnacité. Quant au MNR, son positionnement politique est, on pourrait dire, erroné, dans la mesure où sa hiérarchie a essayé d'ancrer ce mouvement dans un espace compris entre le Front National et l'UMP, et qu'ils ont appelé d'une manière définitive la vraie droite, par opposition à la fausse droite. Le problème, le souci, le hic, je dirais même, c'est que cet espace est actuellement occupé, avec un certain talent, par Philippe de Villiers. On pourrait dire également que le positionnement à droite, et rien qu'à droite, est probablement une erreur. Les scores du Front National d'avant 95 et même l'observation de la dernière présidentielle montrent bien que les nationaux ont une vocation à prendre également des voix à gauche. Par ailleurs, le contexte national, contexte politique national a considérablement évolué. Le concept de droite et de gauche a volé en éclats lors du dernier référendum sur la Constitution européenne. On voit bien que dans les deux camps, celui du oui et celui du non, il y avait des gens de gauche et des gens de droite. Ce qui fait qu'on peut aujourd'hui considérer que nos idées n'ont probablement jamais été aussi proches des préoccupations des Français. Pendant ce temps-là, les divisions au sein du camp national perdurent, alors qu'on est tout à fait conscient que si nous étions plus unis, beaucoup de choses pourraient être de nouveau rendues possibles. Alors, quel est le but de notre initiative? Il est dans un premier temps de permettre à la multitude de militants, de cadres et d'anciens élus de reprendre le combat, de reprendre leur bâton de pèlerin, d'apporter à nos idées leur expérience politique, leur savoir-faire politique. En aucun cas, notre initiative nous sera une scission de plus. Il n'est pas question de diviser en trois un camp qui l'est actuellement en deux. Mais les membres du Front National doivent savoir que l'action du Parti Populiste, puisque c'est le nom que nous avons choisi, est complémentaire à leur action. Il faut ce soir d'ailleurs sur ce sujet lever une ambiguïté puisque beaucoup de questions nous ont été posées en ce qui concerne notre participation aux élections. Alors notre réponse sur ce plan-là est très claire. Chaque fois que se posera le problème des élections, et chaque fois que le mode de scrutin le permettra, je pense notamment au scrutin de liste des élections municipales, nous chercherons à promouvoir toute solution de liste commune avec le Front National, le Parti Populiste, ceux qui ont décidé de rester encore au MNR, et même également le Bloc Identitaire qui fait partie du camp national. Dans tous les autres cas, nous n'aurons, je dirais, pas de politique de présentation systématique au plan national. Nous étudierons avec soin notre participation, jamais dans un esprit d'affrontement, et à ce sujet nous déplorons dans le cadre de la prochaine cantonale qui va se dérouler à Nice dans quelques jours qu'il y ait à la fois un candidat du Front National et un candidat du Bloc Identitaire. Par contre, nous aurons un comportement toujours très clair, sans la moindre complaisance avec le système politique en vigueur. Alors, pourquoi la domination de partis populistes? Pourquoi parti et pourquoi populiste? Notre observation vient de là aussi d'un constat simple qui est celui du milieu politique national. Nous avions un certain nombre de possibilités, appelez ça un mouvement, un rassemblement, une union. Mouvement et rassemblement-union sous-entendent souvent la désunion à la base. Et l'observation montre que tout ce qui est pérenne dans le temps, c'est la notion de parti. Le Front National, le Parti Communiste, le Parti Socialiste sont des partis qui sont pérennes, qui durent. Ils durent pourquoi? Parce que dans la notion de parti, il y a une idée de sérieux et d'organisation. Nous avons donc choisi cette appellation de parti. Il fallait ensuite...
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a un paradoxe dans ce que vous dites. Vous dites d'une part que vous vous situez dans une... Je ne veux pas dire une perspective, c'est pas le mot, ça va pas. Vous souhaitez travailler à la réconciliation. Autrement dit, le jour où la droite nationale aura atteint le degré de fusion qui vous paraît nécessaire, vous plongerez vous reviendrez dans le système et vous dites en même temps que vous voulez fonder quelque chose de pérenne. C'est pas contradictoire, ça?
C'est-à-dire que l'observation est simple. Il y a, de fait, du désastre précédent des deux parties en cours.
Pardon de vous recouper, mais le mot désastre, s'il y a il faut parler clairement, hein, s'il y a un désastre, c'est l'échec total du MNR.
Tout à fait.
Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, moi je crois beaucoup de gens se sont abusés sur les motivations de Maigret quand il a créé le MNR. Ils ont pensé que c'était une volonté de renouveau. Je crois maintenant, c'est mon opinion, mais bon, que c'était un coup personnel. Et d'autres se sont aperçus, ils ont fini par comprendre et ils ont arrêté. Qu'est-ce qui vous empêche de rejoindre le camp de base?
Tout simplement que le fait que retourner au camp de base, donc en clair retourner au Front National, ce serait rentrer dans une logique de choix de clan et d'opposition. Tu as
Franck,
peut-être
Franck Timmerman.
Retourner au Front National, ce serait en apparence logique.
Beaucoup l'ont fait
d'ailleurs plutôt à la base, c'est-à-dire les militants d'anciens candidats ont pu le faire, mais ce que beaucoup déplorent, puisque je suis en contact avec beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils ont le sentiment de tomber dans de charrie bancilla, c'est-à-dire d'être à nouveau pris en otage par différentes factions, parce qu'il y a toujours, malheureusement, pour parler clair, des dissensions, et que la boîte de Pandore n'a pas été refermée. Oui,
tu ne crois pas que l'idée que vous avez d'un parti populiste avec un programme, avec une volonté, une démarche politique qui est assez claire d'ailleurs, ça serait plus efficace de la faire jouer dans le Front, qui est un parti qui a déjà ses structures, qui existe, qui a son poids, etc., pour faire évoluer les positions et les mécanismes du Front,
en apparence,
plutôt que de créer une structure à part.
On s'est posé la question, mais notre retour, pour certains d'entre nous, qui avaient été d'ailleurs sur le devant de la scène en 98, notre éventuel retour, si tant est qu'il eût été souhaité d'ailleurs, et souhaitable, car là aussi, les dirigeants du Front National ont leur mot à dire, mais notre retour aurait pu générer, connaissant les dissensions actuelles, une surenchère de divisions, d'accusations supplémentaires qu'il n'était pas souhaitable d'infliger au front.
Bon. Mais si on se réfère à ce que faisaient nos aïeux, quand par exemple ils ont fait des fronts, au sens du front, ou des gouvernements d'union populaire ou des gouvernements de salut public. Mmh. On est dans une situation de salut public aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui refuserait le retour au nom d'une querelle de clan ou au nom d'ambition personnelle, qui dirait non, moi je veux pas de retour de ces gens-là parce qu'ils sont partis il y a 6 ans et qu'ils reviennent maintenant avec des équipes, avec une volonté de travailler, avec une expérience supplémentaire et tout, on ne pourrait pas après se revendiquer d'une attitude de salut public.
Sans doute, mais d'abord aucune proposition concrète n'a été faite dans ce sens.
Mais vous avez demandé, vous?
Nous n'avons pas demandé. Je crois que dans ces cas-là, je crois que c'est un positionnement stratégique et politique au sein du Front National. C'est aux dirigeants du Front National de dire quelle stratégie interne ils entendent prendre afin de calmer les choses ou de prononcer une réconciliation afin qu'elle soit non seulement publique, mais qu'elle entraîne une nouvelle dynamique. Parce que la réconciliation, il faudrait que ça entraîne une nouvelle dynamique.
J'ai l'impression qu'on a, en dehors de ça, c'est que l'essentiel du problème, c'est des querelles de personnes, enfin des antagonismes de personnes. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de ce qu'a fait Maigret, toi tu es parti, Franck, tu as quitté le MNR, le Galou est parti, et il y a des gens qui sont restés au front, je pense à Bertrand Robert, je pense à Jacques Houdin, je pense à des gens comme ça, qui sont des militants absolument impeccables, qui sont restés au MNR, je veux dire, qui sont des gens absolument impeccables, et on a l'impression que c'est de l'énergie perdue en vain, quoi. Bon, un garçon comme Nicolas Beck, c'est un type brillant. Bon, il fait son boulot, mais on a une espèce, pour le compagnon de route que je suis, on est un peu désespéré de voir que ça se passe comme ça, et on est désespéré aussi de voir que ça semble pas en voie de s'arrêter. Vous voulez dire quelque chose, Marquis?
Pardonnez-moi d'être arrivé en retard, mais enfin bon, je remercie le taxi qui a fait ficelle. Mais moi, je suis comme vous, un compagnon de route, sur le bord de la route, je regarde, et alors je suis plein d'espoir, mais par moments, je me dis, ça y est, c'est comme les autres partis, c'est les intérêts de personne qui priment. Parce que moi, je ne sais pas, quelqu'un viendra un peu à récipiscence, j'irai au-devant. Mais là, j'ai l'impression que si vous venez, il va falloir passer sur des fourches caudines qui portent peut-être d'ailleurs un autre prénom. Et ça me gêne. Parce que est-ce qu'on en a vraiment envie quelque part? Et moi, je suis sur le bord de la route, désespéré. Je l'avoue, désespéré, avec quand même maintenant un peu d'espoir, parce qu'il y a des gens qui veulent revenir. Mais bon.
Même s'il y a des divergences sur différents aspects du programme, puisque l'actualité a évolué depuis. Il est certain que le tronc commun, le dénominateur commun, impliquerait que nous retournions au front. Mais aucun signe tangible n'a été donné, hormis quelques mots par-ci, par-là. Et en plus de ça, je ne crois pas que les conditions soient requises pour ce retour, car il n'y a pas eu d'évolution, d'abord, au sein du front. Il n'y a pas eu les problèmes que nous avions soulevés et qui ont entraîné, n'est-ce pas, ce que l'on sait, n'ont pas été résolus, les problèmes de gestion et autres. Et puis, je ne suis pas sûr que notre retour éventuel aurait été apprécié et il aurait pu aggraver une situation qui est très grave. Parce que le Front National est un géant politique, c'est lui qui a gagné, Le Pen a gagné incontestablement. C'est un géant électoral, mais c'est un géant au pied d'argile. Et dans beaucoup de fédérations, ce sont malheureusement des coquilles vides. Or, nous avons notre part de responsabilité là-dedans aussi, à cause de la scission, ça je tiens à le dire. Mais en prenant du recul, nous, notre réflexion, c'était de dire ne rien faire et attendre, l'attentisme est la pire des politiques. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Créer un club ou se rallier à un autre club ou à un lobby ou à une association déjà existante, alors là, c'est une forme d'attentisme ou de dilution.
Non, c'est le millefeuille, là. Oui.
Mais nous avons pensé, grâce à Christian Pérez, à une autre solution qui consistait à rester dans le politique, parce que c'est un combat politique, et à créer une structure, un parti politique qui soit très différent. C'est-à-dire que pour la première fois, on crée un parti politique qui ne sera pas en guerre avec son voisin direct. On crée un parti politique qui n'entend pas non plus céder aux tentations du tout électoral, c'est-à-dire se précipiter dans les tentations du système électoral.
Mais est-ce que vous êtes sûr que le voisin direct ne va pas être en guerre avec vous, malgré vous ?
Non, c'est clair, il y a même des témoignages.
Il y a un autre problème.
Ah bon, bravo.
Absolument, mais ça c'est une autre crainte. C'est que nous, on pouvait craindre cela, mais le voisin direct, il ne manifeste vraiment de travail que quand il y a des élections. Or, nous, notre vocation et notre raison d'être, ça va être de travailler en dehors des élections, c'est-à-dire de recréer des réseaux un petit peu partout pour exploiter l'actualité dont on parlait.
Mais vous allez tirer les marrons du feu pour le voisin.
Tu tires les marrons du feu, là, c'est ça.
Mais Francky Meermans, j'ajoute une question, parce que je suis comme le marquis et des milliers d'auditeurs au bord de la route, balançant entre l'espoir et le désespoir, et je vous entends avec intérêt parler de renoncer au tout électoral, et je voulais vous demander, à vous qui avez été quand même, je crois, le numéro 3 du MNR, si justement ce tout électoral n'a pas été la principale cause de la faillite du MNR, dans la mesure où après deux échecs électoraux, on n'avait plus rien dans les mains. C'est-à-dire qu'on a payé le fait d'avoir voulu économiser la construction en porte-à-porte, mètre par mètre, militant par militant, d'une véritable organisation et non pas d'un comité électoral.
Je te rappelle que le désespoir en politique est une sottise absolue.
C'est pourquoi nous balançons entre l'espoir et le désespoir.
Soyons plutôt
vous comme
du côté
moi, cher
de l'espoir. Là, vous venez de dire quelque chose de très important au niveau du porte-à-porte et de la structure en profondeur dans les fédérations. Il est clair que notre initiative se propose de remettre au travail une foule de gens qui sont en attente et qui ont quitté l'un et l'autre parce qu'ils n'y trouvaient plus leur raison. Donc tous ces gens-là sont prêts, ils sont disponibles, et en plus, il y a quelque chose qui se produit, disons, depuis fin 2004 et jusqu'en fin 2006. Il n'y a plus de contexte électoral. Je ne parle pas du référendum où tout le monde était d'accord sur le nom, c'est clair. Donc là, il n'y a plus d'opposition d'hommes, il n'y a plus d'opposition d'appareils, et là, on peut parler à nos amis du camp national, et ils écoutent. C'est clair. Sur ce plan-là, il y a quelque chose à réaliser, et comme il est impossible de remonter dans un des deux bateaux précédents, puisque il en est ainsi, nous allons créer une structure qui mènera son propre chemin, mais jamais en opposition avec les autres, et non pas pour travailler pour les autres d'ailleurs, parce que nous allons faire monter la pression au sein du camp national, c'est une évidence, et quant aux élections, nous nous intéresserons essentiellement au scrutin municipal, c'est vrai, mais s'il est possible de se présenter à d'autres élections sans être en opposition avec nos amis, nous le ferons, jamais dans une idée d'affrontement et toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, en sans jamais aucune complaisance avec le système. Et d'ailleurs, aucune complaisance avec ceux qui en ont vis-à-vis du système.
L'idée de bateau me plaît bien. La dernière émission, on a parlé des corsaires.
En tout cas, c'est une initiative que je trouve sympathique, originale, parce que d'abord, il y a des gens qui disent, moi je me lance dans le combat, c'est pas pour avoir un poste de conseiller général, déjà ça c'est suffisamment rare pour être salué. Et puis, l'idée de parti populiste, ça me plaît assez.
Oui, hein? Rien que le
on
mot, déjà.
Le retour du roi.
L'adjectif est urticant, mais il colle.
Il a été employé 24 fois le soir de la soirée référendaire.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que, sur le plan de la communication, on aurait pu estimer que c'était un terme péjoratif, sous prétexte qu'il était galvaudé par la gauche, tel qu'il est utilisé, on a l'impression que ce sont des démagogues, etc. Or, populiste, le mot peuple est un mot plein d'honneur, chargé de beaucoup de devoirs et d'honneurs, et dans le cadre de la bataille du vocabulaire, nous estimons qu'il était nécessaire, ne serait-ce que pour bien ancrer notre courant national comme troisième force possible face à la bipolarisation qu'on connaît, et surtout à cette droite ignoble qui est actuellement au pouvoir, il était essentiel de s'appeler populiste, et comme ça on parle de
lui. Alors, vous répondez à la question pourquoi, au lieu du parti populiste qui a une connotation négative, ne pas avoir fait un parti du rassemblement de la droite. Par contre, nous dit le même auditeur, votre initiative est très bonne, vous soutiendrez les actions du FN, du MNR, très bien, mais qu'allez-vous faire avec M. de Villiers?
Bah, De Villiers, la balle est dans son camp. Mm-hmm. Est-ce que De Villiers va rompre avec l'UMP? Ce n'est pas parce qu'il fait voter les deux députés MPF contre la confiance que pour autant il se sépare de l'UMP. Que ce soit en Vendée ou ailleurs, M. De Villiers est tenu. Alors maintenant, si demain il nous dément, et si il franchit le Rubicon, alors là on examinera la chose sous un autre angle. Et tout dépendra aussi de son programme. Mais nous avons en face de nous d'abord un haut fonctionnaire, on a donné dans ce domaine-là, on l'a déjà donné, et on a un ancien ministre de la Culture qui n'a pas beaucoup laissé de souvenirs extraordinaires.
Ça vaut peut-être mieux, la Culture.
Oui, peut-être, mais on a un homme qui, il faut l'avouer, a fait une campagne référendaire remarquable. Bon, cela dit, la balle est dans son camp, et si sa stratégie consiste à avoir un pied chez le notaire pour la succession du Front National et amener cette succession dans le panier de M. Sarkozy, c'est non.
Oui.
C'est non. C'est pour ça, la création de, comme le disait Christian tout à l'heure, de notre initiative vise aussi à empêcher toute imposture de ce style, car beaucoup de gens qui sont sur le bord de la route, comme le disait notre ami, pourraient être tentés par ce genre de sirène. Or, cette sirène, eh bien, elle n'a pas franchi le Rubicon, et tant qu'elle ne le franchira pas, eh bien, nous nous efforcerons de rassembler tous les amis qui sont isolés.
Merci Franck Timmermans. On n'a pas le temps. C'est un commentaire, c'est une question. Un auditeur facétieux vous dit, parti populiste, bah, ça fait pépé. Pour y adhérer, faut-il être du troisième âge?
Nous y avons pensé. Nos organes de presse s'appelleront les populistes, ainsi que notre site internet, qui d'ailleurs proposera également une rubrique réservée aux autres tendances de la famille nationale, puisque nous sommes dans cette logique de réconciliation.
Alors, si on veut vous joindre, une adresse?
Une adresse, le site internet www.parti-populiste.com. Et puis, dessus, il y a une possibilité de laisser des mails et d'avoir un contact direct avec notre structure.
Mais pour les deux ou trois Français qui n'ont pas encore Internet, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter?
Alors, pour le moyen de nous contacter, nous avons une boîte postale qui est la boîte postale 145 92 406 Courbevoie CEDEX.
145, boîte postale 145, 92
406 Courbevoie CEDEX.
Bon, ben, on vous suivra avec intérêt, curiosité et sympathie, il faut bien le dire quand même.
Merci à vous.
Merci à tous les deux. Monsieur l'abbé Laguerre, je vais vous demander d'opérer une translation horizontale jusqu'au micro le plus proche.
Nous aussi, on joue aux chaises musicales, alors, comme Chirac.
On est obligé, hein, oui.
Enfin, je profite du changement pour dire que le taxi qui m'a amené tenait des propos qui nous rejoindraient ou qui vous rejoindraient, et que c'était un jeune homme. Donc
le mot populiste, je ne pense pas que ça lui fasse peur. Et c'était un type formidable, et je le remercie.
Ça ne lui fait pas peur d'être un pépé, alors?
Ah, je ne pense pas.
Bien, monsieur Laguerre, ça y est, je lui fais sauter son titre.
Incroyable. Monsieur Laguerre, il est défroqué à peine arrivé.
Monsieur l'abbé, bonsoir.
Bonsoir, Serge, bonsoir les autres.
Vous portez-vous bien?
Eh bien, ma foi, le meilleur monde. Et toujours content de vous revoir, de toute manière.
Toujours bordelais?
Toujours bordelais, oui, et plus que jamais.
Comment ça se passe là-bas?
Ça se passe bien. Ça se passe bien.
Racontez-nous un peu.
Eh bien, à Bordeaux, nous avons, vous le savez, une très belle église 14e qui s'appelle Saint-Éloi. Et qui devient chaque jour un peu plus belle, chaque jour un peu plus remplie. Mais ce qui se vide simultanément, c'est le porte-monnaie, évidemment. Alors, nous avons une équipe de 6 ouvriers qui restaurent les voûtes. Il faut quand même les payer, parce que c'est des gens qui mangent, et qui mangent bien. Nous avons...
Un ouvrier mange, ça ne veut pas plaire à Villepin, ça.
Ça mange tous les jours, un ouvrier. Hein, et ça mérite son salaire, et ça mérite d'être nourri, en tout cas, ça c'est sûr. Quelle démagogie. Et puis, y a aussi les vitraux, qui sont presque tout neufs, mais les factures sont également toutes neuves, presque intactes. Donc, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et puis surtout, le grand poste, c'est le grand orgue de cette église, qui coûte quand même 226 000 euros de restauration, ce qui fait 170 briques. Alors j'en ai payé les deux tiers de tout ça, et puis voilà, je suis un petit oiseau sur la branche, je fais cuicui, et je viens gazouiller dans vos studios.
À propos de gazouiller, ça a marché votre disque de Flutio?
Tout à fait, ils sont tous vendus pour l'instant. Faudra, je veux pas le multiplier de nouveau.
Flutio,
c'est pas du Flutio, c'était la chorale, la chorale philharmonique de Saint-Éloi.
Philharmonique de Saint-Éloi.
Ouais, carrément. Non, ils sont tous vendus, mais comme j'attends la mise en route du grand orgue pour la fin de l'année, il me semble que le prochain disque devrait intégrer ce grand orgue. Et là, je ressortirai ma flûte, je ressortirai la chorale, je ressortirai beaucoup de choses.
C'est vrai que moi, je me pose quand même des questions sur la santé mentale de certains prêtres. Je le dis avec beaucoup d'amitié, mais... Le père Argouache, qui est fauché comme les blés, fait construire une église. Vous, qui êtes pas beaucoup plus riche,
je suis pas beaucoup plus riche,
un orgue.
Je connais pas ça.
Je crois pas que vous soyez même moitié si riche que lui.
Alors que oui, tant d'évêques font démolir des églises.
Alors, pendant ce temps-là, les évêques et conciliaires font démolir les églises, ou les donnent comme pour en faire des mosquées, ou pour en faire des supermarchés ou du cinéma. Enfin, il n'y a plus de cinéma maintenant, c'est déjà ça de gagner. Mais ça vous paraît si important que ça, de dépenser
Oui, tout à fait. Moi, surtout qu'à l'heure actuelle, il y a la question de la laïcité qui est en balance. Vous connaissez mieux que moi les options des partis politiques. Il y a ceux qui se cramponnent à la loi de 1905 pour éviter... la braderie, cette loi de 1905, inique dans ses principes, a quand même permis ceci de sauver un certain nombre de bâtiments que les évêques furieux des années 60-70 auraient bradés de toute évidence.
Pour faire construire des cages à lapins aujourd'hui.
Pour faire construire des cages à lapins ou simplement... Alors, ils peuvent se compenser sur le patrimoine privé, puisque j'apprends qu'à Lyon, pratiquement, l'évêché a décidé il y a quelques mois, c'est très récent, de brader la moitié du patrimoine foncier de l'évêché. Et voyez, ils ne peuvent pas toucher aux églises qui ne leur appartiennent pas. Ils ne peuvent pas toucher aux cathédrales, ils ne peuvent pas toucher aux églises communales, et c'est une très bonne chose. Pour ça, c'est un effet... Alors, je pense qu'à ce moment-là, justement, comme il y a une pression énorme du gouvernement sur les évêques pour modifier la loi de 1905 qui les empêche de faire ce qu'ils veulent dans les églises, ça nous a énormément servi à Saint-Éloi, puisqu'ils y avaient mis les archives municipales, ce qui était tout à fait illégal, pour d'ailleurs éviter les squatteurs turcs, kurdes, etc., qui s'étaient introduits sous la houlette et avec la permission, l'autorisation du clergé de l'époque, encore vivant. Hein. Voilà. Alors, ce qui fait qu'il y a une pression énorme du gouvernement français pour que les églises, qu'on modifie la loi de 1905, pour que les évêques puissent les concéder, et j'allais dire les remplir en ce moment, c'est un relativement facile, parce qu'il y a cette problématique de fond, et plus indispensable que jamais, je dis bien plus indispensable que jamais, il faut rouvrir les églises si on veut pas que la loi de 1905 se modifie et qu'un jour elle devienne d'abord des supermarchés ou des salles d'exposition de concerts rock comme en Alsace ou autres activités et pour finir en mosquée et autres voilà. Donc c'est des paris un peu fous que je fais. C'est la deuxième église que je restaure en 4-5 ans, et puis j'ai pas l'intention d'arrêter d'ailleurs, mais
on va vous la piquer celle-là aussi. Non, je pense pas,
c'est impossible. C'est bien verrouillé. Et donc, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais parce qu'il y a cette nécessité pour l'épiscopat français d'occuper toutes ces églises. Alors comme ils peuvent pas le faire. Oui, on pourrait le faire pour des raisons surnaturelles, voilà. De foi, etc., d'évangélisation. Mais au moins, là, il le faut pour que le gouvernement ne fasse pas main basse, parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée, ça c'est une question politique, vous le savez. Il suffirait qu'ils votent une modification de la loi 1905, qui stipule expressément que les évêques sont affectataires des lieux uniquement pour l'exercice du culte catholique. Mmh. Donc pour l'instant, il y a quand même un certain verrouillage avec cette loi, qui pourtant au départ était catastrophique dans ses principes, et évoque la galère. Ce qu'il leur est interdit à l'heure actuelle, eh ben, ils le feraient abondamment. Toutes ces églises qui ne servent pas seraient bradées aux mairies pour en faire à peu près tout, et en particulier des mosquées à terme.
Qui est avec vous? La BRI est toujours là-bas?
Alors, bon, on est un quatuor, j'allais dire, soudé. Il y a la BRI.
L'harmonie, quatuor.
La BRI est avec moi en permanence à Saint-Éloi. Il m'a beaucoup aidé et continue de le faire, d'ailleurs. Il s'entend très bien. Et puis, à Paris, ben, on est en osmose parfaite avec M. l'abbé Aulagnier, bien connu, et M. l'abbé de Tannouarde, qui ouvrait le centre Saint-Paul. Voilà. Ce qui fait que c'est un peu le quatuor. Je ne dirais pas que la contrebasse, c'est l'abbé de Tannouarde.
C'est vrai que c'est un peu ça.
Ni le violoncelle, l'abbé Aulagnier. Moi, je serais le petit violon léger, plutôt.
Oui,
le premier violon.
Alors, donc, si on a bien compris, vous n'êtes pas ennemi des participations financières à...
je serais plutôt pour. Là, je voterai oui dans ce cas-là. Là, je voterai oui. Si les gens veulent m'aider, je crois que leur argent... Alors, évidemment, c'est terrible parce que j'ai déjà pas mal sollicité les fidèles. Ils ont été extrêmement généreux d'abord. Et puis, j'y reviens. Bon, je suis un peu confus, mais c'est...
Vous n'êtes pas le premier curé à demander de l'argent, quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ça dure.
Surtout à ce micro, là.
Surtout à ce micro. Mais c'est vrai qu'il me manque encore pas mal de fonds. Et je garantis le résultat. On est en train de faire un chef-d'œuvre. Non, mais je dis bien, on est en train de faire un chef-d'œuvre au point que les architectes des monuments historiques de la région ou d'ailleurs, quand ils visitent, nous disent, vous faites un travail que les beaux-arts eux-mêmes ne font pas aussi bien.
Et voilà pourquoi la mairie de Bordeaux et l'évêché vont vous le confisquer dès que vous aurez fini.
Non, parce que c'était, d'abord la mairie n'a plus un mot à dire dans cette affaire. Si elle disait un seul mot, je commencerais, comme c'est la convention qui nous y autorise, à lui réclamer toutes les sommes. Donc si l'église m'était reprise, je récupère toutes les sommes.
Ah bon, ça...
Et je m'engage à les réinvestir dans une autre église, mieux verrouillée. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'avenir de Saint-Éloi. C'est vrai qu'on a perdu les procès, mais qu'est-ce que, ces pertes de procès, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait que la mairie n'a plus son mot à dire.
Ouais.
Et que si elle avait un mot à dire, et pouvoir public, par la mairie, il devrait immédiatement, d'abord exécuter des choses odieuses, mais également rembourser 3 ou 4 millions de francs, de francs lourds. Donc, Et puis on a de très bonnes relations avec la mairie qui est contente du travail qui se fait. Il faut dire qu'on a su, je pense, grâce à M. Labéry d'ailleurs, qui est un peu responsable de la communication, on a su à Bordeaux se concilier la faveur de l'ensemble et des personnalités et même du peuple. À part deux, trois excités trotskars qui continuent à hurler.
Oui, parce qu'il y a des conversions.
Je le savais.
Ils sont durs à cuire, ceux-là. Hein, bon. Mais il n'y en a presque plus. Et l'ensemble des gens... On a quand même un livre d'or à l'entrée. C'est le troisième qui fait deux... Donc ça fait 600 pages qu'on a tartiné de félicitations.
Et Mgr Ricard l'a signé.
Mgr Ricard ne l'a pas signé, mais je l'ai rencontré deux fois. Et il ne m'a pas caché que c'était normal qu'on ait Saint-Éloi. Et que le jour où ma situation canonique serait aplanie, parce que c'est vrai que c'est un petit peu tendu en ce moment, mais je ne suis pas venu parler de ça, on est bien d'accord?
Non, pas du tout.
Eh bien, bon, c'est normal que ça...
D'ailleurs, je vous signale que le trotskar de service m'a masticoté pour que je vous attaque là-dessus. Imperturbable,
si j'ose dire. Pour l'instant, imperturbable.
Pour l'instant, Ricard se mouille pas.
Non, ça va.
Il a fini d'attaquer les mecs, on vient de vous dire qu'il était gentil.
Mais c'est une vraie bonne nouvelle, vous avez eu un conflit terrible avec l'évêque de Bordeaux et ça va mieux, vous nous dites.
C'est-à-dire, il a quand même eu depuis le début cette honnêteté foncière de dire que s'il avait intenté un procès à la mairie, c'est comme ça que ça s'était passé, c'était vraiment pour faire valoir le droit, parce que lui, il n'a pas caché, il n'est pas de la tendance Sarkozy pour modifier la loi de 1905. Il est pour un maintien de la loi de 1905 en l'état pour éviter que. Et c'est vrai que si on admet au départ que Saint-Éloi n'était pas désaffecté, ça représentait une entorse au principe. Et il m'a toujours dit, et je crois avec beaucoup de franchise, que ça n'était pas contre Saint-Éloi ou encore moins contre la mairie qu'il faisait ça, mais pour maintenir le principe du droit que les évêques, en tant que président de la conférence épiscopale, que les évêques ne puissent pas faire n'importe quoi de leurs églises. Ou que les mairies ne puissent pas et que l'évêque ferme les yeux. Quoi.
Alors, pour en terminer, l'adresse à laquelle on peut témoigner sa sympathie et son amour de la belle musique d'orgue.
Et sa générosité Oui, bien sûr. Alors, c'est très simple. 40 rue Paul-Louis Lande. Paul-Louis, les deux prénoms. Paul-Louis Lande, L-A-N-D-E. 40 rue Paul-Louis Lande. 33 000 Bordeaux, tout simplement.
Et on l'envoie...
Il manque une ligne, là.
Au-dessus
de la rue, il y a un monsieur.
Alors, vous avez deux solutions. Soit vous désirez un reçu fiscal, et là, c'est impérativement Association Église Saint-Éloi. Association Église Saint-Éloi. Parce que cette association, comme elle restaure, avec toutes les autorisations juridiques, un monument classé historique, elle délivre des reçus fiscaux. Je signale quand même aux auditeurs qu'ils le savent, mais que quand ils donnent 100 francs, s'ils payent des impôts, en vérité, ils ne donnent que 40 et sont remboursés de 60 par l'État. Enfin, c'est quand même très important. Et ça a multiplié, ça c'est une bonne démarche qu'a fait notre assemblée, là. Et ça facilite énormément la générosité des associations.
C'est devenir démocrate à force. Vous.
Mais non, là, il y a quelquefois des bonnes choses. Et ça peut arriver.
Il faut les prendre. Il faut les prendre,
et celle-là, on l'a prise avec beaucoup de joie. Donc, pour un reçu fiscal, Association Église Saint-Éloi, si vous ne désirez pas de reçu fiscal, eh bien, tout simplement, Paroisse Saint-Éloi. Mais de toute manière, soyez tranquille. Alors, évidemment, si vous voulez un reçu fiscal, c'est Association. Ça, Association.
Association.
Mais de toute manière, que ce soit les frais généraux d'entretien, de nourriture, etc., de fonctionnement de la paroisse, ou le poste de restauration, ça arrive finalement dans le même fonds commun. Voilà. Okay. Donc, 40 rue Paul-Louis.
Bon, ben vous nous tiendrez au courant de la suite des... On n'a pas le temps, Victoria, vous êtes marrant. Alors, allez-y, posez-là votre question, mais vite.
C'est une félicitation. Ah, bon, on est content d'avoir reçu M. Labelaguer.
Je voulais le dire.
À sa conférence à Paris, et nous sommes heureux d'entendre aujourd'hui sur Radio Courtoisie, qu'en est-il de votre église Saint-Éloi, qui a été reprise, assure cette auditrice, par l'évêque, maintenant qu'elle est restaurée à nos frais.
C'est absolument faux. L'église Saint-Éloi a 600-700 fidèles. Elle est bourrée à craquer le dimanche. Elle fonctionne très bien. Elle est dans les mains de l'association Église Saint-Éloi, que je préside, vice-président l'abbé Héry. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. C'est une valeur sûre dans laquelle on peut investir, évidemment. Investir. Voilà. Et de toute manière, je vous ai dit que tout centime qui sera mis dans cette église, au pire des cas, serait récupéré. Donc il n'y a aucun risque. Et en plus, il n'y a aucun risque qu'elle soit récupérée dans l'église elle-même. Donc tout va très très bien dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas comment ces bruits, d'ailleurs, ont pu...
Ma parole, vous dites la messe deux fois pour les sourds, monsieur l'abbé.
Oui, j'en remets une couche, oui, mais j'en profite, moi.
Merci bien, en tout cas. Merci de venir nous voir. Vous venez quand vous voulez, bien entendu.
C'est très gentil. Avec beaucoup de joie. Merci
à Serge Vegage,
à toute son équipe et à tous nos chers auditeurs de Radio Courtoisie.
Et bravo.
Merci à la prochaine. Continuez.
Continuez.
Le combat.
Ce n'est qu'un début.
R. Docteur, avant de vous donner la parole, je voudrais quand même, pendant que l'abbé Laguéry nous quitte pour retourner dans son bordelais. Non pas natal, mais résidentiel. Je voudrais faire une petite remarque. Vous avez certainement entendu parler de la manifestation sacrilège qui a été organisée par les gens d'ACT UP à Notre-Dame, où ils ont essayé de célébrer le mariage de deux antiphysiques femmes. Oui.
Antiphysiques avec un E, Serge.
Et alors, naturellement, ils sont conduits comme des voyous, mais ça n'étonne personne. Mais je voudrais leur attirer leur attention sur un petit message que m'a adressé un de mes amis, qui m'a dit, rappelez-vous, parodie de mariage Coluche le Luron le 25 septembre 85. Le 19 juin 86, Coluche croit qu'il peut écrabouiller un camion avec sa moto. Erreur. Le 13 novembre 86, Monsieur le Luron dépose son bilan. Tentative de profanation de Saint-Nicolas du Chardonnay par un collectif de sans-papiers le 8 décembre 2003. Le 10 septembre 2004, Monsieur Romain Binazon, organisateur de la profanation de Saint-Nicolas, passe par perte et profit dans un accident d'automobile à pétrole en Afrique. Le 6 décembre 2004, décès d'Alain Rioux, qui était vert, enfin, il était déjà vert avant de... Bon, organisateur de la profanation en question. Alors cet auditeur et ami me dit, sacrilège de Notre-Dame organisé par ACT UP le 5 juin 2005, qui et quand?
Mais vous pensez que des militants d'ACT UP, vous pensez que des militants d'ACT UP pourraient mourir du sida à la suite de cette opération
sacrilège? Non, mais peut-être un accident de motocyclette.
Mais il faut qu'ils continuent alors.
peut-être un accident de motocyclette, on ne sait pas.
Au sacrilège s'ajoutent, Serge, les faits, les, que, comment on dit, les coups et blessures
oui, ça, c'est...
contre Monseigneur Jacquin, qui est un prêtre à cheveux blancs et qui a non seulement eu un coquard, alors là, peut-être que même nous, on pourrait en rigoler, mais il a également reçu un coup sur la nuque, ça s'appelle le coup du lapin, ça peut être mortel, oui, qu'il a envoyé au sol sans connaissance. Ça n'est pas la première fois que les gens d'ACT UP se livrent à ce genre de provocation sacrilège à Notre-Dame de Paris, ça devient une habitude, et on peut se demander ce que font les pouvoirs publics et la force publique qui nous coûte pourtant assez cher.
Ce qui est fabuleux, c'est que Jérôme Martin, président d'ACT UP à Paris, dit une action, c'était une action symbolique pour interpeller l'Église catholique. Mais pourquoi ils ne vont pas interpeller la synagogue ou la mosquée?
Parce qu'ils se font casser la gueule.
Ah ben voilà, c'est ça. C'est... Alors il a dit... J'ai moi-même pris plusieurs coups, dont deux très douloureux. Mais il avait qu'à pas y aller.
Il s'est pris où?
Apparemment, un endroit qui
le cela dit, vraiment, je trouve que là, ils sont en train de foutre par terre le peu de bonnes choses qu'ils auraient éventuellement pu faire au moment du sida, etc. Ils se décrédibilisent totalement. Personne ne peut suivre ça, y compris dans la communauté homosexuelle, même la plus échevelée. Ouais. On ne peut pas suivre des trucs pareils.
Il n'y a pas besoin
totalement...
d'être catholique pour souhaiter qu'on ne casse pas la gueule au recteur de Notre-Dame de Paris. Là,
c'est n'importe quoi, ça.
Voilà, monsieur le docteur dort, comme vous me l'avez demandé, je vous donne la parole.
Réveillez-vous, docteur.
Non, il dort pas, il écoute. Il est, avec son air angélique, il écoute et il dit, qu'est-ce qu'ils sont méchants.
Je voudrais d'abord vous raconter une histoire horrible, la vérité. Je crois que j'en ai déjà parlé, et j'en suis même sûr, mais au fond, je voudrais la raconter à nouveau. C'est une histoire véritable. Je connais le témoin direct. Elle me racontait cette histoire dans le train. Il s'agit donc d'une histoire qui se passe à Quito, il y a déjà au moins une dizaine d'années. Et il s'agit d'un petit garçon qui est dans un lit d'hôpital à Quito, Équateur. Et ce petit garçon est mourant. Et il a des ecchymoses sur lui, enfin... Et alors cette personne, cette femme qui était là, qui me racontait l'histoire, témoin, voyait cet enfant, ne comprenait pas pourquoi il était, enfin, dans cet état, avec des bleus. Et alors elle l'a vu tout nu, elle l'a vu, elle a dit vous ne comprenez toujours pas. Enfin, je vous dis l'histoire telle qu'elle me l'a racontée. L'anus était béant de ce petit garçon. C'est-à-dire que ce petit garçon avait servi, disons, à des choses horribles, et il en était la victime. Donc, c'est une chose véritablement insupportable. Et ce petit garçon, elle m'a dit son nom, je me souviens de ça. Il s'appelle Luis Mauricio, en espagnol, n'est-ce pas ? Luis a un nom double, Luis Mauricio. Et je veux dire, je pense assez souvent à ce petit Luis Mauricio. Je suis même presque heureux d'en parler, parce que, au fond, quelquefois, je l'invoque, bon. Et je voudrais rapprocher cette histoire terrible d'une autre, qui, elle, alors, est très, très consolante, en fait, et qui pourrait peut-être concerner ce petit garçon aussi. La fête du Sacré-Cœur n'est pas très, très lointaine, c'était, je crois, le 3 juin, c'était vendredi dernier. Et à ce propos, vous vous souvenez des textes certainement, il était question de ceci, tout le monde connaît cette phrase du Christ, très consolante d'ailleurs, très belle, « mon joug est doux ». Et c'est une chose assez curieuse, je crois que le mot « joug » n'est peut-être pas, enfin moi en tout cas, je ne l'avais peut-être pas compris dans toute sa, enfin je pense dans toute son ampleur. Et on va faire un rapprochement avec l'histoire d'avant, évidemment. Mais tout d'abord, le joug, c'est une dépendance. La dépendance, c'est finalement l'état le plus... je parle bien d'état. L'état le plus souhaitable pour un chrétien d'être dépendant de ce... C'est ce que disait très bien Bossuet. Et quand il parlait de prière active, alors là il faut une tension, on ne peut pas être en tension perpétuelle. Alors comment prier sans cesse, et comment définir la prière perpétuelle? Il disait, c'est un état perpétuel de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et au fond, les enfants, très petits, sont en état naturel, en quelque sorte, de dépendance, puisqu'ils ne sont pas autonomes. Un petit garçon de 2 ans, il est très dépendant. Donc c'était peut-être la première idée du joug. La deuxième, c'est accepter cette dépendance. Et là, le malheureux, il était bien forcé de l'accepter. Et la deuxième, c'est ceci, c'est que le joug, ce n'est pas un collier. Ou plutôt, c'est un collier double. Enfin, notre Seigneur n'a pas dit « mon collier est doux ». Le collier, c'est pour une personne. Le joug, c'est pour deux. Et c'est pour une paire. L'étymologie est très simple. Jugum en latin, donc le joug pour une, par exemple une paire de bœufs ou une paire de chevaux à l'attelage. Et ou alors le grec zugon, qui veut dire joug, exactement la même chose. Alors il y a une union. L'idée de joug en grec, je ne suis pas un philologue, mais enfin quand même suffisamment pour reprendre cette idée essentielle d'union qu'il y a dans le joug. Mais vous direz union avec qui? Alors le Seigneur dit mon joug est doux. Ça ne peut être que lui. C'est-à-dire que dans l'attelage il y a la personne qui accepte donc ce joug, et parfois elle est bien obligée, et puis il y a notre Seigneur. Je pense que ce petit garçon n'était pas seul. En plus, vous savez que dans l'Évangile, il y a aussi question de ce... on dit que les anges de ces petits voient Dieu face à face. Donc, il avait au fond, je pense qu'il était entouré de protection et qu'il est monté. Je ne sais pas s'il était baptisé, ça je ne sais pas suffisamment. Mais je pense qu'il est maintenant, je crois, très bien placé et peut-être il prie pour ses persécuteurs. Enfin, c'est... Voilà. Alors, je voudrais dire une autre chose. Nous étions à Marseille il n'y a pas tellement longtemps. C'était à la fin du mois de mai, et c'était la première fois que nous allions à Marseille. Et entre parenthèses, c'était ça. Le père est parti, mais ça, je remercie la fraternité Saint-Pédis. C'est grâce à elle que nous allions pour la première fois à Marseille, qui est ma ville natale. Moi, j'étais très content d'y aller, et c'est eux qui avaient tout organisé, très bien organisé. Nous étions assez nombreux, et donc voilà ce qui s'est passé. Ils étaient assez culottés finalement. Nous étions 13 boulevard d'Athènes, face au planning. Boulevard d'Athènes, pour ceux qui connaissent Marseille, c'est un boulevard très connu, qui tout le monde le connaît, même si on ne connaît pas son nom. Il descend de la gare, et il y avait donc beaucoup de passages. Et alors là, le planning était au numéro 13, ils avaient mis la banderole SOS tout petit sur le mur même du planning, qui était fermé ce jour-là, c'était samedi à 14h30. Alors, nous avons prié, comme d'habitude, puis il y a eu des cris. Et alors, il y a c'était pas un cri à ce moment-là, mais c'était assez curieux. Juste après la manifestation, donc qui avait été relativement calme, il y avait un homme qui était là, assez grand, assez souriant, une quarantaine d'années. Et alors il dit ceci, c'est ça qui m'a vraiment étonné, je voulais vous le dire. Il dit ceci, la vie c'est l'IVG, l'IVG c'est la vie. Et alors il disait ça avec une espèce de sourire, même pas narquois, j'ai pas vu qu'il y avait peut-être de moquerie là-dedans. Après tout, il le pensait. Mais le malheureux, il dit une chose et son contraire. Naturellement, c'est que la vie, elle est détruite par l'IVG. Elle est détruite dès qu'elle apparaît. Enfin, très vite après la fécondation, elle est la vie, c'est l'IVG. Mais alors, il ne sait pas ce qu'il dit. Et c'est ce que je lui ai dit. Mais non, il était tout à fait, il trouvait ça assez intéressant. Et alors, je pensais aussi que quand on parle aussi légèrement, et des hommes politiques en parlent très légèrement, et le planning en parle très légèrement, ou plutôt très, très lourdement, quand ils demandent le droit à l'avortement, comment peut-il y avoir un droit pour le meurtre? C'est ça que je dis, alors ce n'est plus une civilisation qui donne un droit au meurtre, surtout un meurtre de l'innocent. Enfin, ils ont aboli tout le monde le sait, la peine capitale pour le coupable, et alors là, elle est réservée à l'innocent. Mais ça n'a vraiment aucun sens. On est en pleine Babel.
Surtout, ce qui se passe, c'est qu'on a relativisé, en supprimant la peine capitale, on a relativisé toutes les autres peines qui deviennent n'importe quoi. Et on fait la même chose en autorisant l'IVG. C'est très direct. Autoriser l'avortement, c'est tout simplement rendre banal ce que vous racontiez qui est arrivé à ce petit Luis Mauricio. Parce que le gars qui s'est livré à ces actes épouvantables, je suis sûr qu'il est convaincu que c'est moins grave que s'il avait tué l'enfant. À partir du moment où on a le droit de tuer un enfant, on a encore plus le droit de faire ce que lui a fait ce type. Il y a une logique là-dedans. Ça conduit forcément à ça.
C'est toujours cette fameuse phrase, ce malheureux Pierre Simon qui a dit ça. Mais encore, moi je remercie Pierre Simon de l'avoir dite. Deux fois quand même la Grande Loge de France. C'est rare que les francs-maçons se livrent. Et il avait dit ceci, vous connaissez lui, moi on l'a écrit dans tout notre acte, ça. La vie n'est plus un nom de Dieu, elle est un matériau qui se gère. Ouais. C'est à vous tous, vous la connaissez évidemment. Mais je dirais cette phrase est vraiment un mépris, parce que même il avait Est-ce qu'on mesure ce qu'on dit exactement? À mon avis, il ne mesurait pas. Mais quel mépris pour le créateur, quel mépris pour la création. Et tout est permis à ce moment-là, même ce qu'on a dit au début.
Je pense qu'il mesurait ce qu'il disait, mais Dieu soit loué, on n'est pas obligé de le faire.
Enfin, voilà, je
merci,
ne peux pas.
Docteur.
Je n'ai pas tout à fait fini, vous m'accordez encore.
Il vous reste à peine une minute.
Ah, mon Dieu, alors, il faut que je me dépêche. Voilà, nous avons une manifestation.
C'est ce que je voulais vous demander.
Le 11 juin, le samedi. Et ce sera toujours pareil à la bourse, ce sera la dernière fois devant le planning, 14h30. Et puis alors, je vous dirai une chose peut-être encore plus importante, mais là je n'ai pas toujours beaucoup de succès. Il y a une adoration à Montmartre vendredi soir, SOS tout petit. Il faut arriver à 8h30, à 9h les portes sont fermées pour l'inscription, elles sont ouvertes jusqu'à 10h, 10h30, même plus tard, mais pour l'inscription il faut s'inscrire avant 9h. Et puis il y a une petite causerie, mais très intéressante, faite par les sœurs. Voilà. Alors là, je pense que c'est important. Je peux dire encore une chose enfin,
alors, il faut que vous attendiez le début de la deuxième partie, car Franck me félicite.
Si vous
désespéré.
Plaît.
Le docteur devrait partir, mais il me charge de vous redire les deux dates. Alors, samedi 11 juin à 14h30, rendez-vous à la Bourse, près du planning familial, métro Bourse, au coin de la rue Vivienne et de la rue du 4 septembre. Et puis le soir, à 20h30, au Sacré-Cœur de Montmartre, il y aura une adoration nocturne.
Moi, je vais prendre, mon cher Serge, je vais prendre l'exemple sur...
Vous avez commencé in absentia, ce qui ne veut pas dire dans l'absinthe.
Oui, on a commencé parce que le docteur Dehors s'est rendu compte que même les deux minutes que vous lui donniez pourraient nous être précieuses, vu le nombre d'invités que nous avons et le fourmillement de réflexions intelligentes. Je vais prendre l'exemple sur lui, je vais essayer d'abréger la petite promotion habituelle pour le libre journal de la France courtoise imprimé numéro 352 qui est sorti des presses aujourd'hui même, que j'ai sous les yeux. Alors je vous dirais simplement que nous avons mis à la une monsieur Sarkozy, bien sûr, avec un de ses sosies extrêmement amusant, mais j'en laisse la surprise et la primeur à nos lecteurs. Et c'est assez naturel puisque déjà dans le numéro précédent nous avions fait le choix de révéler tout ce que nous savions, comme tous nos confrères, puisque nous appartenons quand même d'un orteil ou deux quand même aux médias, et que nous savions à peu près la même chose, autant que nos confrères sur l'affaire Cecilia. Simplement, nous ne voulions pas insulter nos lecteurs en nous contentant d'échanger des allusions avec nos confrères, mais que nous avions décidé de tout raconter. Alors, dans ce numéro, comme d'autres journaux l'ont dit cette fois, on est obligé de rapporter que Monsieur Sarkozy, qui a promis, je cite, de débarrasser la France des voyous, il commence par les voyous de la DST, des renseignements généraux et même de l'Élysée, puisqu'il a commencé par dégommer Monsieur Gérard Dubois, qu'il accuse parmi d'autres.
Alors, les voyous, c'est lui qui le dit.
Oui, naturellement. Je le cite. Je referme les guillemets. Débarrasser la France de ses voyous, fermer les guillemets. Donc, il en a déjà dégommé un de ces gens qu'il appelle des voyous, qu'il accuse donc d'avoir répandu l'histoire de ses démêlés avec Cecilia Sarkozy. Il s'agit de Gérard Dubois, chargé de mission auprès du préfet de police de Paris. Et le Parisien libéré d'avant-hier nous assure que Pierre Bousquet Florian, patron de la DST, Yves Bertrand, ex-directeur des RG, et Philippe Massoni, le policier de l'Élysée, sont également dans le collimateur. Alors, je vois nos amis syndicalistes policiers de la CFTC qui sourient, disons, et qui hochent la tête, peut-être qui nous diront tout à l'heure pourquoi. Alors, en dehors de Monsieur Sarkozy, bien entendu, nous traitons dans le Libre Journal numéro 352 du sacrilège violent, des violences sacrilèges d'Act Up à Notre-Dame de Paris. Nous révélons que Churchill a fait suicider Himmler, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis, nous avons vraiment des pages internationales extrêmement riches. Message du Brésil, là encore, ça sera sera peut-être repris par l'auteur en personne tout à l'heure, Nicolas Bonnal. Notre correspondant en Malaisie passe en Inde et nous envoie quand même un
on l'a muté.
On l'a muté. C'est le sûreté, c'est mutation Libre Journal. On l'a muté en Inde. Et qu'est-ce que nous avons encore? Ah oui, de longs extraits de la presse algérienne sur une visite assez nombreuse, un pèlerinage de leurs amis juifs à Tlemcen, je crois.
Je vais en dire un mot très rapidement, c'est que depuis très très longtemps, on nous explique, Enrico Macias, enfin beaucoup d'Israélites pieds noirs viennent nous expliquer que vraiment, qu'est-ce qu'ils étaient heureux là-bas, ils s'entendaient très très bien avec les Arabes, c'est formidable, une espèce de pied de cocagne, tout va bien, c'est génial et tout. On était copains, on s'adorait toujours, et d'ailleurs en France, on s'adore tellement que finalement, s'il n'y avait pas les Français pour de souche, quoi, les Français de ou catholiques ou les tous ceux qui sont pas rapatriés pour nous empêcher de vivre heureux, qu'est-ce qu'on serait bien. Malheureusement, il y a ce vieil antisémitisme franchouillard et catholique qui fait que ah là là, c'est terrible. Tandis qu'entre musulmans et juifs, on s'entend tellement bien. Ben, il y a deux journaux algériens qui, à l'occasion de la visite d'un groupe d'Israélites français qui sont venus à Tlemcen pour rendre visite au cimetière de leurs ancêtres, ils ont manifesté toute la sympathie qu'ils éprouvent pour cette communauté. Vous lirez les papiers, vous verrez. Après, vous pourrez faire le choix entre ce que dit Monsieur Enrico Macias et ce que dit la presse algérienne.
Enrico Macias, alors avant de donner les coordonnées du Libre Journal, je voudrais simplement, Serge, vous trouverez ça tout naturel, je pense, corriger en direct au micro les fautes grossières que j'ai laissées en tant que secrétaire de rédaction et que notre brillant correcteur mondain a également laissé. Je tiens à le dire, surtout parce qu'au cours dimanche, au cours de la fête de Radio Courtoisie, j'ai vu et j'ai entendu le marquis ouin de compliments à n'en plus finir sur sa chronique mondaine dans le Libre Journal. Alors voilà, il veut peut-être s'en expliquer, qu'il nous raconte que l'enterrement, les obsèques de Jean-Marc, de maître Jean-Marc Varro, le 31 mai à Saint-Eustache, était à 20h30.
J'ai tellement l'habitude d'aller au théâtre.
Bon, enchaînons rapidement. Si vous voulez vous procurer le numéro 352 du Libre Journal, vous envoyez un carnet de timbres ou 5 euros. Si vous voulez vous abonner pour un an à ce décadaire de 24 pages entièrement rédactionnel, puisque la publicité ne nous est pas payée, vous nous envoyez 110 euros à l'ordre de SDB. 4 places France Lys 75-010 Paris. Si vous voulez faire connaissance avec nos très riches archives sur Internet, gratuitement, vous faites France Courtoise, en un seul mot, point info. France Courtoise, point info. France Courtoise, point info. France Courtoise.
Oui. Vous avez dit quand même que j'ai fait un papier sur le procès.
Ah oui, où ai-je la tête? Mais c'est sans doute, vous m'influencez, c'est-à-dire que mercredi dernier, il a fallu vous secouer comme un prunier pour que vous annonciez la date. Alors maintenant, j'ai cru que vous ne vouliez pas en parler non plus.
Non, c'est ça, c'est que prévenu, les auditeurs le demandent. Alors,
prévenu de Bekech, expliquez-vous, quelle invasion, quels Arabes agressifs, où avez-vous vu ça?
Bah oui, la procureure a dit, mais des Arabes agressifs, et c'est vrai, la raison d'ailleurs, moi non plus, j'ai pas vu, mais parce que j'avais lu une dépêche AFP, j'ai cru que je pouvais tirer des conclusions d'une dépêche AFP, ce qui est complètement idiot, évidemment, je veux dire, tenir aucun compte.
Alors, il y a 3 pages très denses dans le Libre Journal, extrêmement denses. Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet, si je comprends bien, et il nous pend toujours au nez 20 000 euros d'amende compte tenu des derniers précédents. Alors, c'est une raison de plus pour s'abonner.
10 000 euros pour le MRAP, 10 000 euros pour la Ligue des Droits de l'Homme.
C'était pas mignon. Et rien pour le ministère public?
Le ministère public, elle a dit qu'elle laissait ça à la sagesse du tribunal, ce qui est chanceux.
Elle est mignonne. Alors l'abonnement, c'est 110 euros à SDB, 4 places
si, si on reçoit 200 abonnements, c'est fini, on peut payer le MRAP et la LICRA. Le MRAP et la Ligue, ils iront boire un coup de santé.
Ils augmenteront les tarifs la prochaine fois.
Ils pourront payer leur capitation de Franc-Mac ou leur carte du Parti communiste.
Est-ce que j'ai dit que c'était le 10e arrondissement, 4 places Francis, 75-010 Paris, hein, SDB?
Oui,
j'ai rien oublié.
Oui. Alors, j'ai une correction d'un auditeur qui me dit Enrico Macias n'est pas un pied noir, c'est un autochtone d'Algérie, ce qui est parfaitement vrai. J'ai fait un lapsus. Je vous prie de m'en excuser. Messieurs Carme et Toris, bonsoir. Vous êtes déjà venus dans cette émission pour présenter votre syndicat, qui est le syndicat Action Police CFTC. Et là, je vous ai demandé de revenir ce soir parce que vous avez un nouveau patron, pas du syndicat, mais enfin de la police. Quel est le sentiment des policiers en France à l'annonce du retour de M. Sarkozy remplaçant M. De Villepin, après que M. De Villepin ait remplacé M. Sarkozy ?
Au niveau des troupes, je pense qu'il a pas beaucoup de solidarité, puisque il a largement soufflé sur le ministère. Il a fait beaucoup de vent. Il est parti juste avant de tirer le bilan. Malheureusement, il est de retour et c'est un peu la catastrophe.
Qu'est-ce que vous pensez de la photo qu'on a mise à la une de Libre Journal?
C'est assez cocasse. Là, il y a une petite ressemblance. Là.
Hein,
je voudrais pas trop m'avancer, mais
c'est frappant. Cruchot, un destin. On va l'appeler Cruchot maintenant. Parce qu'on a passé, je le dis pour les auditeurs qui persisteraient à ne pas demander le livre journal, on a passé
et qui
n'ont pas la radio en couleur, côte à côte un portrait de Funès en gendarme et de Sarkozy en ministre de l'Intérieur. C'est hallucinant derrière la tête qu'il fait. On dirait vraiment de Funès dans un de ses rôles favoris. Ma biche. C'est exactement ça. Voilà. Alors, et donc j'ai décidé qu'on l'appelait Cruchot. Parce que quand on voit cette tête, on se dit quand même que ça va être assez difficile de devenir président de la République avec une tronche pareille. Cruchot, un destin national. Bon, je ne veux pas dire du mal de votre ministre devant vous seriez gêné. Non, mais ils ne sont pas obligés d'être de mon avis. D'ailleurs, je vois bien qu'ils ne sont pas du tout de mon avis. Vous pensez qu'il va changer quelque chose par rapport à ce qu'a fait Villemain?
Bon, en tout cas, il est fort pressé, comme à son habitude. Il est très agité, puisqu'en fait, il s'est déplacé à Perpignan, a dit qu'il allait éradiquer la délinquance de France, que les interpellations allaient être suivies d'incarcération. Donc, il est devenu maintenant totalement plénipotentiaire, puisqu'en fait, il est à la fois ministre de la justice, ministre de la pénitentiaire, président du conseil général, deuxième. Il a à peu près toutes les casquettes.
Vous savez que le chômage aussi va être éradiqué. Alors, je
crois également,
que c'est l'extinction du paupérisme après
22 heures. Je crois que ce qu'il veut faire, c'est que il va embaucher toute la racaille pour faire buter les chômeurs. C'est pas bête comme truc. C'est l'extinction du paupérisme après 10 heures du soir.
Et vous n'êtes pas conseiller technique.
Ou comme disait Oliver, pas Oliver, l'auteur de Gulliver, des voyages de Gulliver, Jonathan Swift. Oui. Il était partisan d'en terminer avec la famine en Irlande en faisant bouffer les enfants trop nombreux, les enfants des familles nombreuses.
Le docteur Dorn ne nous écoute pas, j'espère.
Non, il est parti, c'est pour ça que je me permets de le dire. Bon, vous avez eu des réactions de vos collègues de Perpignan? On vous a parlé de cette histoire?
Sur Perpignan, de toute façon, il n'a pas spécialement rendu visite aux collègues. Il est allé voir les autorités locales, leur demandant encore une fois de donner des résultats immédiats, alors que c'est une situation qui est en gestation depuis presque 20 ans, puisqu'on a laissé s'entasser des communautés qui se sont regroupées par îlots ethniques et qui maintenant s'affrontent pour tout un ensemble de trafics qu'on n'a pas bien évidemment cité, c'est-à-dire essentiellement ces trafics de shit et autres.
Je veux rebondir sur les propos en fait de mon collègue. Hein. Bien évidemment, Nicolas Sarkozy aujourd'hui, bon, on revient au ministère de l'Intérieur et comme par hasard, il se déplace en faisant encore une fois de plus beaucoup de vent à Perpignan. Mais bon, la situation de Perpignan, elle est directement la conséquence de la politique qu'il a menée en arrivant au ministère de l'Intérieur lors de son premier passage. Il faut quand même savoir que il y avait une démarche qui avait été entreprise par la gauche, bon, qui était une démarche de police de proximité, bon, qui avait énormément d'imperfections puisque cette police de proximité était essentiellement axée sur de la prévention et il n'y avait pas du tout de répression, il n'y avait pas de système.
Ils organisent des matchs de foot avec les banques.
Voilà, exactement. Bon, maintenant, Action Police CFTC, mon organisation se bat bien évidemment pour un concept de proximité qui gravite autour de la reconquête des territoires perdus au profit de communautés. Donc, bien évidemment, on se bat sur ce concept de proximité. Par contre, bien évidemment, on est aux antipodes de la politique de la police de proximité que la gauche nous avait proposée, puisque tout simplement, d'ores et déjà, dès sa naissance, la police de proximité sous le gouvernement Vaillant, entre autres, hein, elle a été gangrénée par les associations qui pilotaient complètement le dispositif et c'était les associations qui influaient directement sur la politique en matière de sécurité. Bon, ça on peut pas l'admettre. La police nationale, il y a des professionnels formés qui ont une expérience de terrain. Il faut laisser à la police nationale la charge de la sécurité nationale, la sécurité intérieure du pays. Donc on peut pas l'accepter. Après qu'il y ait un dialogue avec des partenaires sociaux, des associations, on n'est pas contre, mais on peut pas accepter de se faire gangréner. Donc bon, pour revenir un petit peu débat effectivement sur le retour de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il est tout étonné apparemment de ce qui se passe à Perpignan. Il faut quand même rappeler que si aujourd'hui on commence à rentrer quasiment dans de la guerre communautaire à l'intérieur de notre propre territoire national, puisque là il s'agit bien de guerre communautaire, de communautés qui très certainement s'affrontent, on n'ose peut-être pas le dire, mais qui très certainement s'affrontent pour des questions territoriales avec des intérêts financiers derrière. Hein. Je pense par exemple peut-être au trafic de stupéfiants ou à d'autres trafics, hein, puisque de toute façon c'est la conquête, la possession du territoire qui va faire la richesse d'une communauté. Donc à partir de ce moment-là, bien évidemment, une communauté va toujours se battre pour avoir le maximum de territoire. Elle va le gratter peut-être au niveau des autochtones, mais elle va le gratter aussi au niveau d'autres communautés qui peuvent empiéter sur le territoire. Donc bien évidemment, il n'est pas étonnant de voir cette montée du communautarisme, de violence qu'on peut même plus qualifier, je pense, de violence urbaine. On n'est plus dans le cadre d'une violence urbaine. La violence urbaine,
on est à la limite de la guérilla urbaine.
Bien évidemment. Là, il faut bien voir que là, on est dans une état. Il y a quand même des gens qui se font abattre, là, pour parler un peu policier, qui se font calibrer en pleine rue. Hein. Bon, on est quand même dans une situation extrêmement grave. Et bon, nous, on a d'ailleurs envoyé un communiqué de presse à l'AFP, à Reuters, hein, suite à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, où on a clairement dit et donné notre position hein, sur son tour au ministère de l'Intérieur. On estime qu'il a bien évidemment communautarisé notre société, qu'il a ghettoisé notre territoire. En plus, il a la tolérance zéro. Je pense qu'il a le mot à la bouche, mais moi, je vois aucune tolérance zéro. La seule tolérance zéro aujourd'hui qu'il y a, c'est contre le policier dans l'exercice de ses fonctions. Là, il y a une véritable tolérance zéro qui est exercée contre mes collègues jour après jour. On l'a vu, il a doublé le taux de révocation dans la police nationale. On a doublé le taux de révocation. Aujourd'hui, on vire du flic à outrance. Alors, sans parler des réorientations des missions vers les missions de sécurisation routière, qui sont des opérations de raquette fiscale.
On a l'impression qu'ils font plus que ça, hein.
Mais on embauche des jeunes en
difficulté. Quasiment que ça, bien sûr.
On embauche des jeunes en difficulté dans la police, pourtant non. Ça compense pas.
Au niveau de l'embauche, bon, c'est vrai qu'il y a eu une mise en place des, je pense que vous faites allusion certainement aux cadets de la République. Bon, les cadets de la République, effectivement, Action Police, n'est pas forcément défavorable, on va dire, sur le principe. Le seul problème, effectivement, on nous a vendu la catégorie B au niveau du cadre, au niveau des gardiens de la paix. En théorie, le recrutement devait se faire à hauteur du niveau bac. Bon, le problème, effectivement, avec les cadets de la République, on va en fait former des jeunes et on va les aider, donc des jeunes issus de milieux difficiles, etc. On va essayer de les aider à obtenir le concours, mais en gros ils vont pouvoir, en faisant le cheminement cadet de la République, adjoint de sécurité, bon, par plusieurs artifices, au final ils auront droit à un concours spécialisé, ils auront la possibilité sans le baccalauréat quand même d'intégrer la police nationale en tant que fonctionnaire de police avec toutes les prérogatives qu'a le fonctionnaire de police. Il faut quand même être très attentif au recrutement. Il faut quand même savoir que la police nationale aujourd'hui, un gardien de la paix titulaire est quand même APJ, agent de police judiciaire à l'article 20, donc quand il fait un procès verbal, derrière c'est une conséquence, ça montre au tribunal, on peut quand même faire incarcérer quelqu'un. Et de plus en plus, à terme, les gardiens de la paix seront OPJ. OPJ, ça veut dire officier de police judiciaire, placement en garde à vue, ça veut dire pouvoir de faire des perquisitions, etc. Donc aujourd'hui, moi je suis pour qu'on donne énormément de pouvoir à la police nationale. On a besoin de pouvoir et d'avancer en matière judiciaire. Il faut avoir un maximum d'OPJ pour pouvoir remplir notre mission, mais il faut faire attention aussi à notre recrutement, parce que si on donne énormément de pouvoir, les collègues, ils sont quand même dotés d'une arme à feu, ils ont des pouvoirs d'OPJ, donc c'est extrêmement important qu'on soit très 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 attentif à notre recrutement. Et aujourd'hui, nous, ça c'est un des points sur lesquels Action Police se bat, on voit le niveau de recrutement des concours qui s'effondre, hein. En école de police, je discutais encore avec un formateur, bon, je citerai pas pour pas le mettre en porte-à-faux, mais qui nous disait que bon, les résultats en école de police au cours de l'année pour certains élèves étaient catastrophiques, qu'ils avaient absolument pas le niveau pour intégrer la police nationale, mais bon, il est quasiment impossible de les virer pendant la période d'école, parce que bon, effectivement, on les vire pas pendant la période d'école, c'est-à-dire on va laisser un petit peu tout le monde rentrer, et puis après, bon, par contre, effectivement, le collègue qui a peu ou pas d'activité, peut-être grâce au mérite, etc., il va bénéficier de certains avantages en argent ou en avancement, tout simplement parce que bon, il va bien s'entendre avec une personne bien placée au niveau de la hiérarchie. Et le collègue, en revanche, qui je pense à mes collègues qui travaillent dans les brigades anticriminalité, qui sont confrontés à la violence quotidienne, et bien évidemment au bout de les BACs sont amenés à faire plusieurs dizaines, voire 30 ou 40 contrôles par nuit. Bien évidemment, bah parfois il y a pas des dérapages de mes collègues, mais il y a des dérapages en face. Quand mes collègues sur un contrôle routier souhaitent contrôler une voiture et que la personne veut pas se laisser contrôler, le barrage est forcé, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interpelle et est-ce qu'on impose l'état de droit et on fait respecter les principes démocratiques et on montre qu'il y a quand même encore une autorité dans le pays, ou est-ce qu'on on laisse faire pour éviter une interpellation un peu musclée et puis éventuellement dans les cités on sait très bien comment ça se passe, hein. Les jeunes le savent très bien, ils provoquent systématiquement les forces de l'ordre pour justement que ça dégénère, sachant que dans les cités, tout est filmé, les gens sont aux fenêtres avec les caméscopes, etc. Et ils cherchent le scoop, bien évidemment. Et comme on a une presse systématiquement qui relaye entre guillemets ce qui qualifie de bavure, mais ce qui bien souvent n'en est pas, c'est simplement de la simple interpellation, ça bouge, ça crée un petit peu, mais il y a pas de violence, il y a rien de matériellement, il y a rien de judiciairement condamnable, c'est simplement une action de police, bien évidemment. Quand le jeune veut pas se laisser palper, il veut pas se laisser contrôler, le fonctionnaire de police va se protéger. C'est bien évident, il peut être armé, etc. Donc on a quand même un protocole, c'est-à-dire je pense à la palpation de sécurité qui fait qu'on fouille pas la personne, mais on va la tâter sur l'ensemble de son corps pour vérifier qu'elle n'est pas porteuse d'une arme à feu. Bon bah déjà dès qu'on commence un contrôle d'identité, si la personne refuse de se laisser palper, le fonctionnaire de police ne peut pas en toute sécurité effectuer son contrôle, donc il faudra qu'on la fasse, cette palpation. Bon gré, mal gré, mais il faut qu'on la fasse, c'est pour protéger notre intégrité physique.
Il y a trois semaines environ, vos amis des médias ont fait grand cas d'un sondage, d'une étude qui établissait que le nombre de bavures policières était passé, je crois, de 17 à 23, et ça a été présenté comme un déferlement de racisme anti-jeune, vous avez dû apprécier.
Oui, mais c'est tellement facile, puisqu'encore une fois, lorsqu'on voit le nombre d'interventions policières qui sont réalisées quotidiennement, bien évidemment, trouver 15 ou 17 cas qui sont surmédiatisés.
On n'exagère pas, hein, c'est 17 à 23.
C'est ridicule, véritablement ridicule, mais sans aucun soutien ou quasi aucun soutien du ministère pour relayer un petit peu.
Je pense qu'il faut arrêter avec cette idée de dire que la police est raciste. La police aujourd'hui, pas parmi nos rangs, on a un collègue.
Il suffit de regarder passer les flics.
Voilà, bien évidemment, c'est des collègues qui font très bien leur boulot. Voilà,
aussi bien nous.
On a toujours, vous prenez l'exemple sur Paris, la plupart des patrouilles sont composées en général d'un collègue européen, d'un collègue de couleur, d'un collègue peut-être d'origine maghrébine. Bon, tout ça, le lien se fait très bien. La plupart, fort heureusement, on a quand même beaucoup de collègues qui rentrent quand même avec les valeurs républicaines, et c'est quand même une majorité de mes collègues. Bon, ça pose pas de problème au niveau des patrouilles. Donc après, quand on dit moi j'avais eu le cas quand j'étais encore d'actif sur le terrain, on avait des collègues, je tournais avec un collègue qui était antillais, mais oui, il était très foncé, c'était d'ailleurs un très très bon copain, j'ai toujours d'excellents rapports avec lui, et quand il contrôlait un black, en fait à chaque fois il y avait encore le côté communautaire, on est frères, non moi je suis antillais, non si moi je suis africain, etc. On est tombé dans une telle stupidité au niveau des relations que peuvent avoir les communautés entre elles, c'est vraiment devenu catastrophique. Et je pense que la police nationale, moi à mon sens, elle doit pas être à l'image de la population comme on le dit souvent. Elle doit être un modèle en fait pour la population. Donc elle doit effectivement être composée d'une population multiculturelle, mais on doit bien choisir les personnes qu'on va recruter pour que ça fasse une sorte de modèle aussi bien pour les jeunes de cité, etc. qui voient qu'il y a une possibilité, il y a une vraie police forte composée de peu importe la couleur, peu importe la religion, mais qui est vraiment derrière tout ça, les valeurs, l'idéal républicain. Bon, et effectivement, les cadets de la République, on peut se poser la question, si on leur facilite effectivement l'entrée dans la police nationale, est-ce qu'on va vraiment recruter des gens déjà qui font peut-être pas forcément la démarche, un petit peu quelque part aller les chercher, on les aide un petit peu à rentrer, donc est-ce qu'ils ont réellement envie de rentrer? C'est la première question. Moi, je pense qu'il faut respecter la République.
Je pense
c'est-à-dire, il y a un concours qui est ouvert, tout le monde peut se présenter à ce concours. Là, si on travaille et si on bosse, le concours il est accessible à tous, et je pense que le concours qui est prévu par les textes, le concours administratif administratif, c'est la meilleure des voies de recrutement. Enfin,
moi, je crois que la réponse à la question que vous posez de la motivation des jeunes qui rentrent, des jeunes, entre les guillemets, défavorisés, fermés les guillemets, je ne vois pas d'ailleurs ce qu'ils sont plus défavorisés que les autres, c'est vraiment foutre de la gueule du monde. La plupart des jeunes aujourd'hui ont des problèmes, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, arabes, juifs, ils sont tous dans la même situation, ils ont peur de ne pas trouver de boulot, donc parler de défavorisés, c'est se foutre de la gueule du monde, c'est de faire de la discrimination. Et ce qu'a proposé d'ailleurs Villepin tout à l'heure, quand il a dit qu'il fallait étendre à la métropole quelque chose qui se fait depuis longtemps dans les dom-tom, et qui consiste à faire par l'armée le boulot que l'école aurait dû faire, en prenant, en faisant entrer les jeunes défavorisés pour un stage de 2 ans où on va leur apprendre un métier. On se demande ce qu'a foutu l'école, ce qu'a foutu l'éducation nationale. Et au bout de 2 ans, on les remet dans le circuit. Tout ça, c'est naturellement pour retarder la date du chômage. On sait que dans l'armée, à l'heure actuelle, dans certaines unités, il y a plus de 30% de jeunes originaires de l'étranger, et notamment du Maghreb. Et Alliomarie a fait faire une étude au ministère de la Défense. La réponse a été très claire. On posait la question à ces jeunes-là, en cas de conflit, seriez-vous prêts à vous engager pour défendre la nation? Sur 10, 7 répondent en disant pas du tout, on n'est pas du tout prêts à se battre pour la France, on n'en a vraiment rien à foutre. 2 se marrent, éclatent de rire, et un seul se dit prêt à verser son sang pour la France. Et Libération a publié récemment l'interview d'un Français d'origine africaine, je ne sais pas de quel pays il venait, alors il lui pose la question, ils disent c'est un type qui fait partie d'un groupe de rock noir, ou je sais quoi, et il pose la question, est-ce que tu te sens français? Le gars dit, pas du tout, j'en ai rien à foutre de la France, ils peuvent crever, je m'en tape, moi je suis togolais ou sénégalais ou je ne sais quoi, et puis voilà mon pays c'est ça, bon, je suis en France parce que j'ai les papiers français, c'est mieux que les papiers de mon pays, on gagne mieux sa vie et tout, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Alors,
il ajoutait qu'il allait créer une milice dans son quartier, et alors, Serge,
ce qui m'intéresse, c'est que j'ai
comme à Perpignan.
Créer une milice dans mon quartier pour faire régner l'ordre, enfin l'ordre,
encore une fois de plus, en Action Police est très très claire sur le point. Nous on estime aussi que l'éducation nationale porte un poids là-dedans qui est absolument énorme. Ils ont complètement failli à leur devoir d'enseignement. Ils ont tronqué les cours pour faire de la politique. Vous allez dans certaines, même aujourd'hui, certains lycées du 93, alors qu'il y a encore quelques années, ça aurait été un véritable. On n'aurait jamais imaginé qu'un policier puisse mettre les pieds dans une enceinte scolaire. Aujourd'hui, vous avez bien souvent les proviseurs qui demandent quasiment une patrouille en permanence devant, parce qu'ils arrivent même plus à maintenir quelques paix que soit. Il y a même plus. Ils ont démissionné, je pense, dans certains lycées sur l'idée de faire des cours et d'enseigner aux jeunes. C'est une sorte de garderie. Voilà, c'est une sorte de garderie, mais c'est une garderie où ils essayent en fait de maintenir la paix. Tant bien que mal. Donc, ils comptent effectivement sur les forces de l'ordre. Là, récemment, récemment, au dernier passage, quand on nous parlait de mettre éventuellement des policiers, un policier dans la cour des écoles sensibles, c'est absolument grotesque en fait. Parce que qu'est-ce qu'un policier va faire? C'est pas une garderie. Moi, je pense que c'est à l'éducation nationale de prendre ses patins. Et puis, les jeunes qui veulent venir travailler, qui les reçoivent, et les autres, faut trouver des solution pour faire autrement. Mais bon, une fois de plus, ça c'est le problème des cités, c'est-à-dire que pour une petite partie de la population qui, vous me passez l'expression, mais qui fout la merde en permanence, les autres sont stigmatisés, peuvent pas bosser, et ça crée l'échec en fait de tout un quartier, de toute une cité. Ça c'est le problème du communautarisme, hein. Quand on enrayera le communautarisme dans notre pays et qu'on changera notre politique en matière de sécurité, en matière de vision, c'est quasiment du problème sociologique, hein. Donc tant qu'on réformera pas ça, il faut pas la police, ça reste pour l'instant qu'un pare-feu qui fait ce qu'elle peut face à une montée toujours plus forte des violences, hein. Lors de la dernière émission, j'avais rappelé l'Observatoire national de la délinquance, un rapport publié le 2 mars par l'Observatoire national de la délinquance qui recensait plus 72% de violences physiques sur personne depuis 96. Alors quand Nicolas Sarkozy nous dit que tout va bien en matière de sécurité, que le ministère tout se porte bien, moi j'attends qu'il nous réponde un petit peu sur ce chiffre-là. voilà, qu'est-ce qu'il nous propose là pour enrayer les plus 72%, qu'est-ce qu'il va faire en matière de communautarisme par rapport aux flambées de violence sur Perpignan, qu'est-ce qu'il va faire en matière de ghettoisation du territoire, qu'est-ce qu'il va apporter aux policiers en matière sociale. Nous on demande la carte SNCF comme l'ont les militaires, on n'a pas de réponse, c'est lettre morte, on a un social qui est toujours de moins en moins bonne qualité dans la police nationale. Bon, qu'est-ce qu'il va apporter? Moi je sais pas, j'espère qu'il est pas venu ici pour régler simplement des comptes personnels avec des gens.
Justement, Michel,
à qui l'on veut.
Justement, je pense que là on a déjà la réponse, et là je vais citer un tout petit encart qu'on a retrouvé dans l'Express du 6. En fait, c'est Sarko et les coups tordus. Donc Sarko est bien rentré au ministère pour régler ses comptes, comme vous en parliez tout à l'heure.
Comme il l'a dit lui-même, d'ailleurs.
Il est là donc pour deux choses. Il faut qu'il aille très vite, puisqu'en lors de son déplacement à Perpignan, il a laissé échapper aussi un petit mot, c'est-à-dire que dès 2006, je devrais reprendre l'air. C'est-à-dire qu'en gros, il a 8 mois pour régler ses comptes avec les soi-disant barbouzes qui l'ont sali, etc. Bon, ben ça, la justice, je pense, il faut d'abord laisser s'exprimer la justice. Il est là pour ça, et organiser quoi avec la toute-puissance de la DCRG? Tout simplement, d'avoir les mêmes informations pour réussir la meilleure cartographie pour les prochains découpages électoraux.
Il permettra d'éliminer ses ennemis.
Une fois que tout ça sera fait, je pense que le policier ne l'aura pas vu. Les hauts fonctionnaires, il les aura, en gros, éliminés ou remplacés par des amis. Et l'essentiel n'aura pas été traité.
Enfin, je pense que c'est un petit peu, si vous me permettez, je pense que c'est quand même un petit peu dramatique, parce que bon, le ministère de l'Intérieur, c'est un des ministères clés au niveau du pays. Bon, et voir que ça tourne un petit peu en querelle de personnes, et derrière ça, il y a quand même des enjeux considérables pour les policiers et pour les citoyens, parce que la sécurité, l'état de la sécurité en France, elle est vraiment dramatique. Nous, on se bat entre autres aussi, par exemple, sur le bracelet électronique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On généralise le bracelet électronique, on supprime la notion de punition. Où va-t-on? En gros, la personne, elle va violer quelqu'un, on va lui dire, c'est pas bien, t'es puni, tu restes chez toi.
Michel Thorez, je vous propose, on va refaire d'autres émissions parce que vous avez plein de choses à nous dire. Si on veut contacter votre syndicat, j'imagine que vous avez des collègues qui nous écoutent, qui
bien
sont intéressés, vous nous donnez une adresse?
Bien sûr, donc le www.actionpolice.com, hein, donc www.actionpolice tout attaché. .com, hein, donc le site internet, et vous pouvez retrouver les contacts téléphoniques, les mails, hein, et donc notre bureau national, il est basé à Châtelet, mais bon, sur le site internet, il y aura toutes les coordonnées.
Sur la page internet, vous avez une adresse?
Si il n'y a pas internet, les auditeurs peuvent nous contacter au 2 bis, nous écrire 2 bis quai de la Mégisserie. Mégisserie, c'est 7501 Paris. 2 bis quai de la Mégisserie, 7501 Paris.
Action police
FTC.
Il faut être chrétien?
Il faut être républicain, chrétien, il faut aimer la police nationale, il faut aimer son pays, il faut aimer la France. Et
FTC, c'est terrible comme programme. Merci Michel Thorez,
merci de nous avoir reçus.
À bientôt, vous reviendrez nous tenir au courant de l'évolution de la situation et de votre travail.
Très bien, merci de votre accueil.
Je signale à nos excellents auditeurs que le père Argouache, qui vient de célébrer le 20e anniversaire de son sacerdoce, pendant que Nicolas Bonnal s'en va, alors que j'attendais plutôt qu'il restât.
Le chien de Jean de Nivelle.
Donc le père Argouache sera à Villepreux dimanche à 10h30. Il célébrera une grand-messe scout en action de grâce pour le 20e anniversaire de son sacerdoce, de son entrée dans le sacerdoce. Donc ça se passe à Villepreux, à Grand Maison, chez Monsieur de Saint-Seine. À 10h30 la messe, oui, dans les Yvelines. 10h30 la messe, et vers midi, un vin d'honneur sera servi aux personnes qui voudraient venir saluer le père Argouache, lui dire leur amitié, leur soutien, etc. Dimanche prochain, 10h30, Villepreux, domaine de Grand Maison, chez Monsieur de Saint-Seine. À partir de 10h.
Le train, je crois que c'est Saint-Nom-la-Bretèche le plus proche, non?
Je vous avoue que là, c'est une information dont je ne dispose pas comme ça. Mais si quelqu'un peut me téléphoner pour me le dire, on la donnera bien volontiers. Nicolas Bonnal, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes rentré de... Après, ça fait combien de temps que vous étiez parti en Amérique du Sud?
Je suis arrivé le 9 novembre 2003.
Ah oui, c'est vraiment un an et demi de...
Ça fait 19
d'exil.
Mois.
C'était un exil ou c'était un refuge?
Non, c'était un voyage au départ qui s'est transformé en exil. Et en fait, je voulais partir 5 mois, ensuite revenir. Et puis, je m'y suis trouvé bien, donc j'ai décidé d'y rester.
Okay, vous dites, je m'y suis trouvé bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a paru plus doux à vivre que l'Europe?
La beauté des paysages, l'immensité, le vide, la nature. Et puis, un sentiment de liberté, oui, de liberté.
Parce que vous avez publié des papiers de toutes les décades dans le Libre Journal, dans lesquels, il y avait deux sortes de papiers, il y a des papiers qui racontaient, des papiers d'écrivains voyageurs, et puis d'autres papiers qui étaient des papiers tout à fait étranges, vous avez créé une espèce de monde, des personnages comme le renard qui s'appelle Grommel,
le maréchal Grommel,
le pingouin qui s'appelle général Frango. Frango veut dire en portugais le poulet d'ailleurs.
Oui.
Donc il y a toute une faune humaine où mix d'humains et d'animaux qui raconte des choses tout à fait intéressantes et qui arrive à présenter le voyage sous un angle qui n'a jamais été utilisé par aucun, j'ai pas de souvenir d'aucun écrivain voyageur qui ait fait la même chose, qui souhaite partir en emmenant avec lui une espèce de compagnie virtuelle comme ça, de gens improbables et magnifiques.
C'est un peu comme dans le film Seul au monde, où Tom Hanks se retrouve sur son île déserte et il crée Wilson. Ça c'est mon Orbiger. Et puis il y a les animaux qui sont venus après. Alors pourquoi les animaux? C'est parce que je trouve qu'ils ont une espèce d'existence plus puissante là-bas. Il y a une présence réelle de l'animal encore, ou de la nature, qui chez nous est patrimonialisée. Les moines sont partis, mais il nous reste le patrimoine. Et là-bas, il y a quelque chose de plus sauvage, de plus essentiel. Alors, il y a les fameuses baleines de la péninsule Valdès, où j'ai rencontré le prophète Jonas. Et puis, il y a le colibri, qui m'a fait penser à la vie des anges. Parce que cet oiseau, qui ne se déplace presque jamais sur ses pattes, ne se nourrit que de nectar avec un bec en forme d'hémicycle, souvent. Et puis il bat 5000 fois des ailes et il est très batailleur. Donc je sais pas, il y a ou même les coatis au cataracte. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant chez les animaux là-bas.
Et vous avez fait un papier qui a enthousiasmé beaucoup de lecteurs. Je dis enthousiasmé parce que c'est vrai, sur le fameux papier sur les colibris. Donc vous avez raconté le colibri, ce qui paraît une chose à la fois évidente et compliquée. Et c'est un papier superbe qui a beaucoup beaucoup plu et qui montre toute l'étrangeté de cette créature dont vous dites que c'est un ange, effectivement.
Oui, parce que la paléo-ornithologie ne lui a pas trouvé d'ancêtre. Donc c'est quand même étonnant, hein. C'est un oiseau qui n'a pas d'ancêtre.
Il n'a pas d'ancêtre.
C'est le Melchisédek des oiseaux et il n'a pas d'origine, il n'a pas d'antécédent et il est arrivé comme ça sur Terre en état de perfection.
Tombé du ciel.
Oui, il est tombé du ciel. Surtout qu'il vit en général à jamais plus de 3-4 mètres d'altitude, quasiment à votre niveau. Là, dans cette pièce, il voleterait autour de nous.
Et alors, il y a un répertoire, un vocabulaire du colibri qui est ahurissant. Il y a des dizaines de sortes de colibris qui ont tous des noms plus merveilleux les uns que les autres.
Oui, il y a des centaines d'espèces de colibris. Alors c'est vrai que là-bas, je me suis intéressé aux noms latins. Alors pareil, quand je m'amuse avec les noms, les Notophagus d'Ombéi ou les Notophagus antarcticus.
Il y a un hiéro.
La forêt, chose. Oui, un hiérotomis, bouche, tout ça. Donc ils ont... Je me suis intéressé à la nature, alors qu'en fait en Europe ça m'était jamais arrivé, ça m'était jamais venu à l'idée.
Oui, parce que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Les territoires protocolaires, entre qui est les territoires protocolaires sont des territoires dont la nature est totalement exclue.
Oui, alors là il y en a beaucoup au Brésil. Le Brésil est une grande déception du point de vue d'un développement industriel et urbain aberrant. Récemment j'étais à Recife. Recife, c'est là que j'ai pris mon avion pour repartir. J'ai eu un certain nombre de problèmes et la Rodoviaria, où il y a pourtant un excellent barbier Barbier, parce qu'il y a aussi ça, cet art traditionnel qui s'est conservé là-bas, elle est à 25 kilomètres quand même du centre-ville. Et c'est des territoires infinis qui traversent des favelas, des cours d'eau polluée et tout ça. Il y a un côté infernal au Brésil qui...
Excrémentiel, presque.
C'est un peu la symbolique des oiseaux, parce que Chateaubriand, dans Le génie du christianisme, il parle, ah, je vous ai fait lire ce texte, il parle de ces oiseaux dont le chant évoque les anges, dans Le génie du christianisme.
Ah, c'est un chapitre
magnifique. Il parle aussi des missions que j'ai vues, la Guarani, tout ça. Il y a la face satanique de l'oiseau, qui est les vautours qu'on voit sur l'Amazone à Belém, enfin sur les fleuves de Belém, ou alors évidemment tous les goélands qui pullulent aux quatre coins pour ramasser les ordures humaines. Donc un oiseau hitchcockien qui relève de la déchetterie cosmique.
Il y a un autre oiseau qui vous a fasciné, c'est le condor, oui. qui est l'opposé absolu du colibri.
Alors, il y a deux endroits pour observer le condor. Il y a Mendoza, où j'y suis allé quatre fois, qui est un endroit magique dans les Andes. On mange et on boit divinement bien pour rien, parce que c'est aussi pour ça que je reste là-bas, c'est que c'est plus économique que de vivre 8 jours à Paris, de rester 2 mois en Bolivie ou 1 mois en Argentine. Et il y a le Condor qui à la Quebrada del Condor, où il y a le fameux canyon de Colca à côté d'Arequipa au Pérou. Et là, il faut venir aussi à la bonne période comme pour les baleines, c'est-à-dire pendant la saison des amours. Et à ce moment-là, les condors cherchent des courants ascensionnels. Et on entend le bruissement de leurs ailes. Ils passent, c'est un bruit de planeur. Et c'est extrêmement majestueux. Mais ça fait vraiment passer dans une autre dimension, là.
Ils font quelle taille,
on sait qu'elle va pas durer plus de 3 mètres d'envergure.
Ah oui, ils sont des oiseaux gigantesques.
Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un...
C'est une autre forme angélique, comme...
Oui, c'est la région Condor. Mais là, on passe dans une autre dimension. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un oiseau qui ne se nourrit que de cadavres et qui n'a pas de serre. Donc, il ne peut pas enlever Milou dans les airs comme on le voit dans le temps du soleil, là, Hergé a été trompé. Par contre, donc, il se nourrit uniquement de, comme nous, de cadavres, d'animaux déjà tués.
Oui, la remarque est vraie, d'ailleurs, parce que on a tendance à faire les dégoûtés devant les charognards, mais il faut bien reconnaître que l'homme, jusqu'à présent, ne mange pas de créatures vivantes.
Sauf dans les banlieues, mais sinon...
dans les banlieues et dans les bars à huîtres.
Ouais, hein, voilà.
Et quel est le pays qui vous a qui vous a rendu le plus amoureux?
Contrairement
au Brésil.
Je crois que dans l'ensemble, c'est quand même l'Argentine, parce que il y a tout. Il y a Bariloche, les lacs, les forêts qui sont magnifiques. Il y a les glaciers Patagons, il y a Ushuaia, la possibilité de partir en Antarctide. Au nord, il y a les cataractes et il y a les Andes. Donc ça fait beaucoup de choses. Et puis il y a ce merveilleux endroit dont j'ai parlé plusieurs fois qui s'appelle Pigouë. Et qui a été peuplé par des immigrants français, par des colons français qui y sont rendus en 1886. Et là-bas, j'ai fait un certain nombre d'amis, donc j'y retournerai avec plaisir. Donc c'est des colons qui sont arrivés de l'Aveyron et qui ont développé l'agriculture à la française. Et dans les années 20, ils étaient riches. Après, ils sont devenus plus pauvres puisque ce pauvre continent est parti un peu à la dérive. Mais l'endroit est charmant et la Pampa aussi a sa
quand
culture, sa civilisation.
Il y a un côté français d'avant-guerre.
Oui.
On peut imaginer la France.
Il y a une espèce de France qui un peu à la manière latino-américaine, c'est-à-dire avec des quadrats, des angles droits et plus grand, plus étendu. Mais il y a quelque chose de chaleureux et de sympathique d'années 20 là-dedans, de comment appelle-t-on ça, les années folles, enfin comment appelle-t-on ça, un petit peu de la France d'Arsène Lupin presque dans Pigouë.
Vous n'avez pas l'impression que on dit que le climat et le territoire forment l'homme, mais que l'homme aussi finit par agir sur un territoire, parce qu'il n'y a pas plus éloigné de la France que on imagine un paysage sud-américain, et pas plus éloigné d'un paysage aveyronnais qu'un paysage sud-américain.
Les Allemands qui ont émigré au Brésil ont créé dans le Paraná une Bavière tropicale superbe, et les Français ont créé ça, et puis les Italiens ou les Espagnols qui ont immigré dans la région de Mendoza ont créé un vignoble. Souvent d'ailleurs avec des plans français et qui rappellent beaucoup l'Espagne où je vivais avant de me rendre en Amérique du Sud.
Est-ce que c'est des Barcelonnettes que vous parliez à l'instant, là, ces gens qui ont quitté en masse Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence?
Non,
sont revenus pour...
Non, c'est des Aveyronnais de différents villages. On peut trouver tout le site hein, sur Pigouë, sur Internet, parce qu'évidemment ils sont...
Google, on tape Pigouë, on voit des choses d'ailleurs magnifiques.
Oui, et la ville est jolie.
je finis là-dessus. Si on va à Barcelonnette, et il y a Lubail qui court à ses pieds, c'est vraiment une région charmante, on voit de très belles villas, de très riches villas qui ont été faites par des émigrés en Amérique du Sud qui sont revenus fortune faite.
À propos de fortune faite, vous nous avez dit tout à l'heure que quand on était là-bas, on pouvait vivre 2 mois avec l'argent qu'on dépense en 8 jours à Paris.
Oui.
Comment ça se fait que ce sont des pays qui sont aussi peu chers? Les gens sont réellement pauvres. Par exemple, en Argentine, on nous a dit que l'Argentine avait été ruinée totalement.
Il y a eu une crise de liquidité très grave.
La grande finance apatride.
À cause du FMI et de cet imbécile de Michel Candessu. Donc là, qui a ruiné la Russie, qui a ruiné tous les pays du monde pour obéir à la loi des marchés financiers. Donc, lisez le Stiglitz, qui est remarquable, le prix Nobel d'économie, qui a travaillé pour Clinton et qui a compris, pour qui travaillait le FMI, quoi. Pour détruire à peu près tous les pays. Et par incompétence autant que par mauvaise volonté. Enfin, c'est effrayant. Enfin, ne parlons pas de ça. Donc, il y a
pas de chose qui fâche. De détails qui fâchent.
Il y a eu de très graves problèmes en Argentine et puis ils se sont résolus. Moi, j'ai vu le pays sur 1 an et demi quand même. Donc, je les ai vus sortant de crise. Les restaurants étaient vides. Mais enfin, là, je les vois pas très pleins à Paris. Hein. Je trouve que la ville est bien calme, que les gens se font rincer par l'immobilier parce qu'il est à des prix de folie, à 6 000 euros, 10 000 euros, 12 000 euros du mètre carré. Et je les vois plus pouvoir sortir, se prendre un café. Je vois même peu de touristes. Enfin, c'est une ville qui est en train de mourir.
Là, vous parlez de Paris.
De Paris. Alors, et Buenos Aires, quand je l'ai quitté, c'était une ruche. Hein. C'était la ruche de Mandeville. Les gens étaient enchantés, ressortaient. Les plages cet été de Mar del Plata, Villa Gesell, qui est encore un petit paradis allemand construit en Argentine, et vers le sud, vers Bahia Blanca, et même en Patagonie, parce qu'il y a de très belles plages en Patagonie. Le climat est, contrairement à ce que l'on croit, est très bon, en tout cas l'été. En plus, il est sec. Et il y a des courants qui viennent du Brésil qui font que l'eau est plutôt plus chaude que dans le nord du pays. Eh bien, les plages étaient pleines, étaient bondées. La prospérité est revenue. C'est un pays qui a 8% de croissance. Moi, je suis assez optimiste pour le futur de l'Amérique du Sud, contrairement à celui de l'Europe. Hein.
La population est différente aussi. Vous me disiez que les Argentins sont intellectuellement, enfin spirituellement, mieux conservés que ce que vous voyez en France.
Oui.
Il y a une scène que vous voyez, alors c'est pas l'Argentine, c'est en Bolivie, je m'ai dit ça ce matin, je m'ai montré sur Internet, il y a une photographie qui est prise donc en Bolivie où on voit les gens à genoux sur le parvis d'une église comme il y a chez eux là-bas, en haut des marches, des immenses parvis, et on voit des gens habillés en costume comme vous et moi, cher marquis, ou comme madame, en jupe.
Pas aussi bien que le marquis quand même.
Non, pas aussi bien que le marquis, mais enfin quand même une certaine élégance. Et ils sont tous à genoux devant l'église sur la pierre du parvis et ils prient pour leur pays. Ouais. Est-ce qu'on imagine ça en France devant Notre-Dame, des dizaines de gens qui
cassent la gueule de l'archiprêtre?
Je pense que là ils se seraient fait tout simplement égorger, enfin pendre. Je sais pas ce qui leur serait arrivé. C'est le genre, mais
la scène dont vous parlez a été photographiée à Santa Cruz de la Sierra. Donc il y a des tendances séparatistes dans cette province parce qu'ils en ont assez des agitations de l'altiplano. Sinon, la première chose qui m'est frappée, place de Mai à Buenos Aires. Ce n'est pas les maires de Mai victimes des fameuses dictatures, ce n'est pas les monuments maçonniques construits à l'époque à l'exemple de Bruxelles ou de Paris, c'est le fait que les gens se signent tous devant la cathédrale, même les cyclistes, même les vélocipédistes, les automobilistes, et tout le monde a son petit gris-gris chrétien, comme en Asie on a son petit gris-gris païen pour conduire sa clientèle. Alors, et en même temps, parce que c'est quand même un continent qui est maudit, moi, dans les médias, parce que tout le temps on nous présente ce continent comme une succession de désastres ou de cruautés ou des tordus un continent de drogués ou de narcos et tout ça, et en fait bon, c'est la propagande hollywoodienne qui en a fait ça, alors que ce sont des gens quand même très très proches de nous, et c'est vraiment dommage que l'Europe n'ait pas conduit une politique, une diplomatie vers l'Amérique du Sud alors qu'elle prétend la faire vers la Turquie.
La doctrine Monroe et mon cher Bonal.
Comment est accueilli le français quand il arrive là-bas?
Bon, on ne sait plus rien sur la France. La dernière fois, j'étais avec 2 Québécoises, je descendais l'Amazone. Elles ne connaissaient pas le nom de Mitterrand. 2 Québécoises.
C'est vexant pour nous, ça.
Oui, parce qu'elles savaient celui de Gaulle, cher Marquis. Mais...
La mano.
Mais ils ne savent plus rien. Donc la France, bon, on vous accueille, dans le meilleur des cas, très aigué. Et puis voilà, ça s'arrête là, la connaissance de la France.
Et il y a d'autres touristes?
Alors,
il y a beaucoup de touristes.
Non, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'y suis resté. Il y a le tourisme local qui va à Bariloche ou qui va
dans les cataractes. Il y a un tourisme international, les glaciers Iguassu et Machu Picchu, évidemment, qui est fantastique. Hein. J'y suis allé deux fois, c'est sensationnel.
Ça vous a frappé.
Mais c'est une merveille.
Quand on voit Machu Picchu, on a l'impression que c'est un endroit à la Disney World. En fait.
Oui, qui est réifié, qui est récupéré par l'industrie touristique. Et en fait, ce qu'on ne voit jamais, c'est ce qu'il y a à droite. Le Putuwasi, qui veut dire l'obélisque allègre, et qui est une espèce de montagne magique de Zauberberg locale pour les Incas. Et c'est ça qui donne toute sa signification au site, en fait. Et il faut y aller rien que pour profiter de ce Putuwasi. Quand j'y retournerai, je grimperai avec un guide, parce qu'il vaut mieux avec un guide pour monter là-haut à partir de Aguascalientes. Et alors, donc, pour le tourisme, non, il y a peu de tourisme, mais je trouve que dans le monde, il y a de moins en moins de tourisme. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, hein, en ce qui me concerne.
Effectivement, c'est le rêve de tout voyageur.
De tout voyageur.
Dans son coin.
Non, non, mais il ne faut pas être égoïste à ce point. Je suis content de partager des bonnes sensations, mais avec des gens qui le méritent, pas avec des gens qui arrivent en avion, qui se font trimballer à 40 en faisant des commentaires désobligeants en général, comme souvent le font les Français, notamment pour la culture culinaire.
On entend Gossini toujours les Français se plaindre. Il y a des choses admirables sur le comportement des touristes français dans les sites les plus beaux. Il y avait toujours, quand le gars arrivait devant, je sais pas, au Machu Picchu, par exemple, je disais, tiens, c'est pour le coup que je boirais bien une petite 1664 comme chez Mimille.
Ouais. Il va falloir que les Français en rabattent là-dessus, parce qu'il vient de sortir il y a deux jours un rapport au terme duquel 17% des enfants sont atteints d'obésité maintenant, et le midi de la France, qui bénéficiait du fameux régime méditerranéen, n'en bénéficie plus. Apparemment, on s'est mis là-bas au fast-food, au néfaste food, comme partout.
Alors, mais Patrick, il y a plus de McDonald's dans Paris que dans toute l'Espagne, alors qu'on arrête là-dessus.
Je tourne la question de la nourriture là-bas.
En Argentine, c'est délicieux, c'est la viande et les vins. Sinon, au Pérou, c'est les ceviches. Il faut attaquer du côté des produits de poisson, puisque c'est le deuxième pays producteur, si j'ose dire, de poisson, après le Japon, le Pérou, c'est amusant. Et le Brésil, on mange de tout, mais alors ce qu'ils ont d'excellent, c'est les sucos, alors c'est les jus, mais de fruits vraiment tropicaux, comme le guarana, ça c'est extraordinaire, alors, ça se prend dans l'Amazone. Sinon, le Chili aussi, il y a une tradition du bon gros plat. Parce que alors on parlait d'obésité, mais il y a aussi des gens bedonnants là-bas, mais qui le sont parce que les Indiens l'étaient déjà. Pour résister au climat, ils devaient accumuler d'énormes réserves de graisse pour résister aux hivers très froids de la Patagonie.
Quand vous repartez là-bas, vous repartez content de repartir ou triste de quitter la France?
Non, la France, non. Non, je suis content de repartir, oui. Et là, je vais faire plus l'Équateur, refaire bien le Pérou parce que je l'ai fait trop superficiellement, alors que c'est un pays extraordinaire avec des gens géniaux. Moi, j'ai quand même deux personnes qui veulent écrire des livres avec moi au Pérou. Un sur la cuisine alchimique Inca et l'autre sur le réalisme magique et l'Amérique du Sud. C'est un sociologue qui travaille à Lima, qui parle six langues, qui est un type extraordinaire. J'ai rencontré à Trujillo. Donc au niveau de la culture, j'ai plutôt rencontré des gens extraordinaires au Pérou plus qu'en Argentine, où on se fait des idées avec Borges, Cortazar et tout ça, qui en fait, bon, vivaient à l'étranger, ne vivaient même pas dans leur pays, ils ne le connaissaient pas. Et je vais retourner en Équateur pour mes colibris, parce que là, j'en peux plus. C'est à Mindo, une yunga près de Quito. Et ensuite, j'irai en Colombie, en espérant ne pas me faire enlever.
Alors, vous avez un lecteur, oui, parce qu'on ne pourra pas payer. Hein.
Non.
Vous avez un lecteur qui est passionné et qui est enthousiaste, c'est Jean Raspail, c'est un beau compliment quand même. Et vous êtes allé en Patagonie jusqu'en bas, vous êtes resté longtemps.
Maintenant. Oui, j'y suis resté, j'ai fait deux étés Patagon. Donc,
vous avez compris la passion Patagone de Raspail?
Oui. C'est pur.
Voilà le mot qu'il faut dire.
Vous allez publier, j'imagine, des textes, vos textes et vos livres, vous allez les publier?
Oui, j'espère. Trouver un éditeur assez fou pour publier les dialogues de Horbiger et de Maréchal Grommel.
On va chercher ça.
D'accord, je vous remercie.
Merci Nicolas Bonnal.
Merci.
Voilà, je me tourne maintenant vers Sharon Newman. Alors Sharon Newman, elle a écrit un bouquin passionnant, qui est une idée, qui est basée sur une idée indispensable. C'est de dire la vérité historique derrière le code Da Vinci. Alors tout le monde a entendu parler du code Da Vinci. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, même de critiques ou d'exégèses sur le code Da Vinci. Et c'est la première fois que une dame qui est une docteur, qui est docteur en histoire médiévale, qui est une historienne, qui a écrit 15 livres, notamment beaucoup de romans policiers qui se passent au Moyen-Âge.
Oui, au deuxième siècle à Paris.
Voilà. Qui est américaine, comme vous pouvez l'entendre, mais qui a l'élégance, la gentillesse, la courtoisie de parler français. Merci, Madame Newman, de bien vouloir en faire l'effort de parler notre langue. Mais si vous avez une hésitation, nous avons notre camarade Goffman, who speaks a perfect English.
Enunciate.
Ah, merci, c'est le même si on parle lentement et clairement. La plupart du temps, je comprends le français. Si vous me comprenez, c'est pas si sûr.
On va essayer, on va faire un effort. Alors, pourquoi avez-vous voulu écrire un livre sur le code, la vérité historique derrière le code Da Vinci? Parce que on peut avoir l'impression que c'est un peu dépenser son énergie pour rien. Le code Da Vinci, c'est une pure fantaisie.
Ah oui, je suis sûre que la plupart de le code Da Vinci est fantasy, mais Dan Brown a décidé de dire que ce n'est pas de fantasy, mais vérité. Et moi, je suis historienne. Et il y a beaucoup de choses dans le Code Da Vinci Code, qui concernent ma thèse. Par exemple, Godefroy de Bouillon et les Templiers et comme ça. Et aussi, les autres choses que j'ai étudiées. Et d'abord, j'ai pas l'intention d'écrire un livre comme ça, mais c'est après ma sœur a dit, ah, j'ai lu le Code Da Vinci, maintenant je sais toutes les choses intéressantes. Et j'ai dit, non, tu ne sais pas ces choses, tu penses que tu sais. Après, j'ai décidé, ok, ma sœur le croit parce qu'elle a lu. Si je crie quelque chose, peut-être ma sœur. D'accord.
Et donc c'est une œuvre de salubrité que vous avez voulu faire. C'est un nettoyage de l'histoire. Vous avez voulu corriger.
Oui.
Vous avez voulu empêcher que les gens pensent que c'était la vérité historique.
Oui, je corrige. Bien sûr, mais aussi je donne background,
l'arrière-fond,
c'est le même chose, ok. L'arrière-fond de beaucoup des choses concernant l'histoire de Louvre ou l'histoire de les francs-maçons. Et de donner beaucoup d'informations pour les lecteurs de décider eux-mêmes. Mmh.
Est-ce que vous croyez que c'est le Code Da Vinci, selon vous, c'est un livre qui a été écrit simplement pour faire un best-seller ou avec une autre idée derrière, une idée de désinformation ou
tous les deux, je pense. Mais les écrivains veulent toujours d'avoir le best-seller.
Bien sûr.
Bien sûr.
Et vous connaissez Dan Brown? Vous l'avez rencontré?
Non.
Non.
Non, pas du tout. Je connais quelques amis de Dan Brown. Mais non, jamais.
Mais vous l'avez lu naturellement plusieurs fois, le Code Da Vinci.
Ah oui.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment un livre nocif, dangereux, mauvais?
Non, c'est pas vraiment dangereux. C'est mais la publicité est dangereuse. Controversie.
Oui, la controverse.
La controverse, merci. Est dangereux parce que tout le monde parle, mais pas avec l'information, pas avec un base pour parler. Et c'est pourquoi j'ai écrit mon livre, de donner l'information.
Alors, dans votre livre, dans le prière d'insérer, enfin la dernière page, on dit... vous posez les questions, en fait. Enfin, vous posez les questions que pose le code Da Vinci. Hein. Marie-Madeleine fut-elle une prostituée, une disciple, l'épouse de Jésus? Jésus a-t-il eu une descendance? Pourquoi les évangiles apocryphes ont-ils été exclus du Nouveau Testament? Qu'est-ce que le Saint Graal? Ce merveilleux trésor existe-t-il? Qui étaient les Templiers? Pourquoi ont-ils disparu si brutalement et existent-ils encore aujourd'hui? Qui était vraiment Mona Lisa? Quelle est la clé des tableaux de Léonard de Vinci? Quelle est la puissance réelle de l'Opus Dei? Vous résumez en quelque sorte les questions que soulève le livre de Darmbrandt, ou les plutôt les réponses qu'il prétend apporter. Parce que lui, il dit oui, effectivement, la Marie-Madeleine a été l'épouse du Christ, oui. Ils ont eu des enfants, c'est parce que les évangiles apocryphes en parlaient, qu'ils parlaient de cette horreur, qu'ils ont été exclus du Nouveau Testament. La puissance réelle de l'Opus Dei, pratiquement, si on en croit Darmbrandt, c'est la puissance occulte la plus redoutable de l'histoire de l'humanité.
Octopus Dei,
la pieuvre de Dieu. Vous avez à chaque fois vous apportez une réponse à ces questions.
Ah oui, c'est arrangé comme l'encyclopédie.
Oui, comme une encyclopédie, absolument. Oui. Alors ça j'allais en parler.
Et j'adresse chaque question et aussi les autres choses qu'il a, comme le Fibonacci, le numéro
Fibonacci. Oui, la suite de Fibonacci.
Les choses que peut-être sont inconnues pour la lecture normale.
La suite de Fibonacci, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que c'est la base mathématique de tout.
Oui.
Enfin, c'est une façon
elle est médiévale.
Voilà. Mais Fibonacci est un grand bonhomme, mais de là à en faire ce que fait Darmbrandt,
il y a. C'est la difficulté parce qu'il donne beaucoup, beaucoup d'effets, mm-hmm. très, très rapidement. Et sans l'autre information, sans donner un contexte. Pour toute l'information.
C'est ça. Et sans laisser respirer le lecteur.
Mon livre est seulement le contexte.
Voilà. Alors, justement, vous dites qu'il est présenté comme une encyclopédie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que chaque chapitre prend un aspect posée par le livre de Darmbrandt, par exemple. Il y a un chapitre, la scène de Léonard de Vinci.
Oui.
Parce que cette scène, ce tableau de la scène joue un rôle très important dans
par Darmbrandt dans ce moyen très intéressant.
Voilà, c'est une hypothèse intéressante, absolument.
Oui.
Et vous consacrez un chapitre très documenté avec des illustrations à cette question en disant voilà le tableau de la scène, le côté gauche, le côté droit, voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on peut en penser.
Oui, aussi je donne les autres peintures de la scène,
voilà.
Pour de comparer.
Notamment
parce que c'est la faute de c'est pas la faute de le livre de Darmbrandt parce que c'est pas l'intention de donner la classe, mais il dit les choses concernant la scène de Da Vinci, mais si on regarde les autres scènes des autres peintures de Renaissance, on peut voir que c'est pas si bizarre, c'est pas si. Oui.
Oui, c'est en fait le tableau de Léonard de Vinci reprend des constantes qu'on trouve dans la peinture médiévale.
Oui.
Il a pas inventé certaines choses.
Oui,
plutôt
voilà.
Certaines choses auxquelles Darmbrandt prête un sens occulte. Ça n'a aucun sens occulte puisque c'est présent à peu près dans toute l'étoile de la scène et c'est plutôt symbolique.
Vous parlez de faute, Madame Newman. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en accusation aussi votre corporation d'historien, vous mettre en accusation comme historienne en constatant que des millions de gens dans le monde se jettent sur une fantaisie, comme vous avez dit tout à l'heure, et que l'histoire sérieuse a moins de succès. C'est pas de la faute des historiens qui la présentent d'une façon austère, alors qu'en réalité, la véritable histoire est beaucoup plus passionnante que n'importe quelle fantaisie.
Ok, c'est une grande question. l'histoire peut être plus intéressant que le fantasy, mais il y a des petites fautes. Par exemple, dans la version anglaise, il a dit que Godefroy de Bouillon était roi de France.
C'est une grande fantaisie.
Ok.
Big fantasy. Big mistake.
Il a dit que le stade Roland-Garros était dans le 20e arrondissement.
Sacrilège.
Bien sûr. Je corrige les petites fautes comme ça.
La photo de la plaque, il a confondu le square et le stade.
Oui. C'est difficile de jouer le tennis dans le square.
Dans un square, oui. Oui,
surtout dans le 20e.
Oui,
c'est déconseillé.
Oui, oui.
Mais, dans le quartier de la raquette.
Oui, mais non, non, il y a beaucoup de gens qui le croient, mais peut-être tous les touristes maintenant qui font les tours Da Vinci à Paris. La chose la plus intéressante à moi est que après le tour, ils croient le même.
Oui.
Ils ne changent pas.
Oui, c'est ça, c'est étrange.
Ils voient toutes les choses, mais tout le même, il dit, oh, juste comme le livre, ok. Je ne comprends pas, mais...
La foi déplace les montagnes, n'est-ce pas, Serge?
Oui. Mais oui, absolument. Mais le reproche que faisait Goffman, enfin le reproche qu'il faisait à votre corporation d'historienne, à votre... vous l'avez, vous ne le méritez pas, parce que vous êtes, je l'ai dit au début de cette émission, enfin au début de notre entretien, vous êtes auteur de romans policiers médiévaux, oui, paru au Livre de Poche, comme La Porte du Diable qui vient de paraître là. Et alors ça, c'est le type même de ces romans,
roman,
qui sont des romans absolument historiques.
J'essaie de le faire absolument historique parce que je suis médiéviste, tous mes collègues le lisent, et c'est nécessaire que si je fais la faute, je l'écoute tout de suite. Mais aussi, je fais les recherches. Et j'adore le 12e siècle en France. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et ainsi, je fais les recherches. Et j'écris quelque chose de sérieux pour l'Académie médiévale en Amérique. Et aussi, je crée un livre. Et j'espère que les livres sont intéressants. Et donner aussi l'esprit du Moyen-Âge. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mythes du Moyen-Âge qui sont continués par les livres comme Da Vinci Code. Et c'est aussi, c'est juste comme le médecin à voir les programmes de télévision concernant les hôpitaux. Mm. Et on voit toujours, toujours les choses mauvaises. Pour moi, c'est le Moyen-Âge. Et il n'y a pas de personne qui
s'occupe, qui se soucie,
qui s'occupe, qui s'intéresse, qui pense que le Moyen Âge, la vérité concernant le Moyen Âge ou le Da Vinci Code est très important. Mais pour moi, c'est important. Et aussi, je pense que si on comprend pas l'histoire, on comprend pas le temps présent. Il y a des autres livres dans la série. J'ai écrit 3 livres concernant le 2e croisade de Louis VII à Léonor d'Aquitaine. Ok. Je me concentrais à Paris, en France, pendant la croisade. Et je remarque de la difficulté si le roi fait une guerre au Proche-Orient. Et il laisse le pays et on a l'économie à chute et toutes les choses comme ça. Personne n'a fait...
Personne n'a pensé à ça.
Oui, n'a réalisé que peut-être l'histoire se répète.
Ouais. Madame Newman ne se doute pas qu'elle parle mieux le français que 99% des Français, surtout des journalistes qui nous parlent du Moyen-Orient, oui, en traduisant Middle East. Et elle dit correctement en français Proche-Orient. Bravo et merci, Madame Newman.
Merci. C'est seulement parce que je suis médiéviste. Maintenant, si je peux apprendre le subjonctif, parfait.
Non, mais alors ça, il faut venir à Radio Courtoisie. C'est la dernière radio où on utilise l'imparfait du subjonctif. Et encore une chose, à propos de ce livre très intéressant, La vérité historique derrière le code Da Vinci, quelle est l'erreur qui vous est apparue, en dehors de l'erreur qui consiste à situer, à faire de Godefroy de Bouillon un roi de France ou de situer le stade Roland-Garros dans le 20e arrondissement et dans un square, quelle est l'erreur qui vous a le plus choqué sur le plan historique? L'erreur qui trahit une véritable incompréhension.
Oui, non, c'est pas les petits faits, c'est l'attitude concernant l'histoire. Que s'il y a la légende,
c'est nécessaire d'être aussi la vérité. S'il y a, si on peut pas trouver les preuves, ils sont cachés. Oui, c'est la vie, le mindset, le pardon.
L'état d'esprit.
Merci.
Oui, c'est le l'ambiance générale du livre vous paraît déplaisante, incorrecte. C'est un peu, on peut presque dire.
Oui,
c'est
il y a beaucoup de choses vraies ou faux.
Il y a un mélange.
Mais c'est partout. Surtout, c'est l'air, c'est l'attitude qu'il y a le grand plot.
Complot.
L'attitude peut-être d'un auteur de fiction, M. Brandt, qui a fini par se prendre au sérieux.
C'est parfait pour fiction, c'est parfait pour les...
Voilà, il a fini par prendre au sérieux sa fiction et par se prendre pour un historien ou pour un découvreur, ou il a fini par se prendre au sérieux.
Il a fini par croire que ce qu'il écrivait lui-même
seriously.
Était vrai.
Ah oui.
He took seriously fiction.
D'accord. C'est vrai. Et c'est la vraie difficulté de ce livre parce que le monde est très mystérieux et compliqué et on veut, je pense que la plupart des gens, moi inclus, veulent croire qu'il y a peut-être les mal et les bien et ils luttent, mais c'est pas mon problème exactement. Il y a les sociétés secrètes en tous les deux côtés et quelqu'un protège le monde et les autres, mais il n'y a pas de responsabilité personnel.
Je vous pose une question, si elle vous choque ou elle vous paraît indiscrète, ne répondez pas. Vous êtes croyante?
De quoi?
Vous êtes chrétienne, vous croyez en Dieu?
Do you believe in God?
Moi, je...
Are you Christian?
Oui, je comprends la question, mais la réponse est difficile, parce que moi, je crois que si on a une religion, c'est entre l'individuel et Dieu.
C'est pas l'affaire de le
reste du monde.
D'accord. Mais je vous pose cette question parce que on a l'impression quand même que votre livre a été écrit pour répondre à certains blasphèmes qui sont contenus dans le roman de Dan Brown. Le fait de dire, par exemple, que Marie-Madeleine était l'épouse du Christ, c'est un blasphème pour un chrétien. Et on a l'impression que vous avez écrit ce livre aussi pour dire que c'est pas vrai. Donc
oui,
il y a un côté blasphématoire du mensonge.
C'est,
là.
Non, pour moi, c'est le blasphème, c'est la foi. Et la foi, je suis historien. Et je peux dire seulement qu'il n'y a aucune preuve que Marie-Madeleine était la femme de Jésus. Et si on veut le croire ou pas, c'est le métier de foi.
D'accord. C'est l'affaire de chacun, c'est une affaire
oui,
de foi.
Oui.
Ce livre a été publié aux États-Unis.
Ah oui?
Comment a-t-il été reçu?
Comment
a-t-il été reçu? A-t-il été
très bien.
Très fortement médiatisé?
C'est fantastique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres concernant le Da Vinci Code en Amérique. Mais il y a... il apparaît. Non, il était sorti en janvier. Et maintenant, il était imprimé encore cette fois.
Ah oui.
Et je fais beaucoup de programmes comme ça, même en anglais. Beaucoup mieux en anglais.
Non, mais c'est parfait. Et la présentation était la même, la
oui,
jaquette.
Même
la. Parce que je veux dire que ce livre est un magnifique objet d'édition. Il est beau, on a envie de le prendre.
Le titre gaufret, là, c'est une technique américaine qu'on commence à importer.
Vous savez, la première fois que je l'ai vu, je n'ai vu que ce livre quand je suis rentré à la Fnac Opéra. Je n'ai vu que celui-là, tout de suite. Après, bon.
Mais... Ah. Alors, il est beau, voilà, ça c'est une chose. D'autre part, il est très très bien fait parce que À chaque fois, toutes les questions qu'on se pose, comme j'ai dit, il y a une réponse, mais sous forme encyclopédique. C'est-à-dire, c'est pas du long bavardage. Par exemple, il est question de la lingua pura. Hein. Et alors, il y a un chapitre consacré à la lingua pura. Un des messages du Da Vinci Code se révèle être écrit en anglais, ce qui étonne Langdon, jusqu'à ce que Tibbing lui rappelle que l'anglais est la lingua pura. Selon Langdon, l'anglais est intact de toute influence latine. Aussi n'est-il pas contaminé par l'influence du Vatican. Bon.
Il y a de quoi rire. Si on a étudié l'anglais 15 jours, les trois quarts du vocabulaire sont français et donc latin.
C'est très énigmatique. Des personnages aussi instruits que Langdon et Tibbing connaissent l'histoire de l'anglais. Cette langue est très riche car c'est une combinaison de langues germaniques, anglo-saxons et danois, et de langues romanes, latin et français. Le mot langage vient du latin lingua et le mot germanique correspondant est tongue. À cause de cette fusion, les anglophones ont le choix entre deux mots à consonance très différente pour dire la même chose.
Comme mutton et sheep.
Le latin a pénétré. Oui, il y a beaucoup de doublons volontaires. Mm-hmm. Le latin a pénétré deux fois l'anglais. La première fois, ce fut au 7e siècle, quand les tribus anglo-saxonnes d'Angleterre furent converties au christianisme.
Et la seconde en 1066, n'est-ce pas, Serge?
Oui, oui.
Voilà. Et ainsi de suite. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en plus, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. En dehors de la question du code de
l'éthique. C'est pas nécessaire de lire tout le livre, mais on peut choisir tous les chapitres que ça intéressait.
Voilà. Par exemple, pour ceux que ça intéresse, il y a un chapitre sur Fibonacci qui est quand même c'est un sujet absolument passionnant. Si vous voulez vous amuser un petit peu, lisez.
J'ai dit que c'est parfait pour les salles de bain.
Oui.
Absolument.
SDB.
On peut lire quelque chose long, si oui. on doit rester voilà. longtemps, mais quelque chose de très court.
Oui, oui, c'est ça, absolument. Et c'est très divers, un chapitre sur les Mérovingiens. Qui sont les Mérovingiens? Alors ça, il y a même un arbre généalogique. Un chapitre sur Mithra. Qu'est-ce que c'est que Mithra? Qu'est-ce que c'est que le culte de Mithra? Quels sont les liens éventuels entre le mithraïsme et le christianisme des origines? Enfin, c'est vraiment un bouquin très bien fait. On voit arriver Charles Nodier d'un seul coup. On voit Cocteau aussi, un chapitre sur Cocteau qui était supposé être le grand maître du prieuré de Sion.
Ah oui, et j'ai trouvé, ça m'intéresse beaucoup, que Cocteau était un grand ami de Roland Garros. Et oui. Dan Brown n'a pas le mentionné. C'est absolument, je suis sûr, c'est un complot.
Un complot pour le faire gagner au tennis, probablement. Oui. Et parlons un peu de l'autre pan de votre talent, qui est le roman policier, un roman policier historique. Vous en avez publié une dizaine, je crois, non?
Oui.
C'est les aventures de Catherine le Vendeur.
Oui.
C'est donc une. Alors ça paraît tout à fait étonnant de confier à une femme. Un rôle dominant dans un roman médiéval, puisque tout le monde, on est bien d'accord sur le fait que la femme au Moyen-Âge n'avait aucune existence.
Oui. Hein? Un autre mythe. Mais j'écris maintenant un livre concernant les femmes du XIIe siècle. Ouais. Mais, oui, vraiment, les livres concernant une famille, Catherine et le personnage le plus important, elle était étudiante d'Héloïse au Père Raclay, et c'était parce que, bien sûr, j'aime l'histoire d'Héloïse et Abelard, mais je me demandais qu'est-ce qui est arrivé d'Héloïse après Abelard, 20 ans d'après, mm-hmm. et quelle sorte de fin est-elle devenue. Et je commence comme ça, et aussi avec Abbé Suger et le bâtiment de Saint-Denis. Et ils sont tous mélangés. Et aussi, je trouve quelques personnes.
D'où vient cette passion que vous avez pour l'histoire de France? Parce que c'est l'histoire de France, hein. L'histoire d'Europe, mais c'est surtout l'histoire de France.
Oui, je l'adore. Et je ne suis pas du tout française, irlandais.
Oui, c'est irlandais, vous pouvez difficilement le cacher, je veux dire.
Oui, oui. Mais, pas français, mais l'histoire m'a piégée quand j'avais 19 ans, et Je l'adore.
Vous avez fait vos études à Paris?
Non. J'ai fait les études en Amérique et seulement je fais la recherche ici deux ou trois fois chaque année. La plupart en latin aux bibliothèques nationales, à la bibliothèque nationale ou comme ça, les archives.
Où enseignez-vous?
Je n'enseigne pas encore. J'ai enseigné à Temple University à Philadelphie et à l'Université de Californie à Santa Barbara.
Est-ce que les étudiants américains s'intéressent beaucoup
Oui. Mais pas beaucoup au commencement. Bon,
ceux qui peuvent situer la guerre de sécession et qui sont quand même à peu près 30%. Excusez-moi de vous le rappeler.
Oui. Mais pour moi, je préfère enseigne à travers les livres, mais aussi de donner vraiment le sens que les gens sont toujours le même, avec les mêmes inquiétudes.
Les inquiétudes, les mêmes préoccupations.
Ils ont aimé les enfants, ils ont peur, ont peur comme ça. Ils sont toujours le même, mais l'histoire répète.
Et vous êtes à Paris depuis longtemps, cette fois-ci?
Non. Cette fois, j'ai passé déjà trois semaines en Turquie et je suis ici seulement deux semaines plus.
Et quel est votre sentiment sur ce que vous voyez de la France aujourd'hui, puisqu'il paraît qu'on était très très gravement ennemis, la France et les États-Unis en ce moment? Vous avez cette impression?
Ah non, j'étais ici au commencement de la guerre, et aussi pour l'élection avant, et c'est très bien que les gens français n'ont pas les difficultés de séparer le gouvernement des États-Unis des gens.
Du peuple des États-Unis.
Du peuple, parce que vraiment nous sommes le même.
Merci beaucoup, cher Anne.
Merci Newman. À vous.
Votre livre, La vérité historique derrière le Code da Vinci. Alors, naturellement, tous ceux qui ont lu le Code da Vinci sont obligés de lire ce livre parce que c'est un antidote d'excellente qualité. Puis ceux qui ne l'ont pas lu peuvent commencer par lire ça, puis après peut-être jeter un œil sur le Code da Vinci parce que c'est vrai qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir lu le Code da Vinci pour s'intéresser au livre de Charles Newman parce que il y a dedans beaucoup, beaucoup de révélations, de détails, de petites remarques amusantes, intéressantes. Et
20€, je vois.
Oui, 20€ pour un très très beau livre. Ça s'appelle La vérité historique derrière le Code da Vinci de Sharan S-H-A-R-A-N Newman. Newman, c'est facile.
Oui.
C'est paru chez Guy Trédaniel, éditeur. Et l'autre, c'est un roman policier qui s'appelle La Porte du Diable de Sharan Newman toujours, qui est paru au Livre de Poche et que je n'ai pas lu, mais dans lequel je vais me jeter avec gourmandise.
On peut lire aussi Meurtre dans la Basilique.
Et Meurtre dans la Basilique, qui est un autre livre de Sharan Newman.
Oui.
Merci beaucoup. Merci de vous intéresser à la France et
de parler de notre langue. Ma France.
C'est un plaisir, vraiment.
Okay.
You're welcome.
Vous avez des annonces à nous faire.
Chrétienté Solidarité, La Griffe et le Cercle Prince de Talmont vous invitent à participer à la prochaine conférence de Bernard Anthony sur le thème La France, l'Europe, la chrétienté. Regarde sur le monde actuel. Vendredi 10 juin à 20h au Centre de l'Étoile, 26 rue Albert Maignan, 72 000 Le Mans. Parking sur place. Téléphone pour les renseignements 02 43 42 70 80. Samedi prochain 11 juin de 15h à 18h30, Hugues Kerali dédicacera La Clé du Songe, libraire et France Livre, 6 rue du Petit Pont. Les petits chanteurs de Saint-Charles de Versailles donneront la petite messe solennelle de Rossini sous la direction de Jean-François Bétis le samedi 11 juin à 20h30 à Notre-Dame des Armées, 4 impasse des gendarmes à Versailles. Et le samedi 18 juin, à 20h30, à Notre-Dame-de-Grâce de Passy, 10 rue de l'Annonciation, à Paris 16e. Le parloir du Colombier organise le dimanche 12 juin une brocante vente de charité dans ses locaux du 9 rue du Vieux Colombier à Paris 6e de 10h à 19h. Dans la foulée, un des membres de l'association exposera le lundi 13 et le mardi 14 dans les mêmes locaux ses dessins, gravures et peintures de 10h à 20h. Le 21 juin, à partir de 20h30, dans le cadre de la fête de la musique, la mère agitée recevra le chœur Montjoie Saint-Denis. C'est chez Valérie, 21 rue Campagne Première, Paris 14e, métro Raspail, téléphone 01 43 35 56 64.
Et puis on peut prendre une minute pour vendre nos livres, Serge, puisqu'on passe des heures avant ceux des autres. Alors votre nouveau livre, Le Dictionnaire de la Colère, c'est 25€ plus 5€ de port, à l'ordre de Serge de Beckett, 4 place Francis, 75,10€ Paris. Et le mien, Diverse Droite, c'est 23€ à Du Alpha Diffusion, BP 58, 77 522 Coulommiers Cedex, ou bien sur dualpha.com ou fnac.com.
Merci à tous, merci d'être restés avec nous. Toutes nos excuses au Marquis qui n'a pas eu droit à 5 minutes cette fois-ci, mais qui n'est pas fâché. Non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz, 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8.